France Inter, le 18-20.
Une semaine en France, et quelle semaine ! Avec des candidats à la présidentielle qui remettent ouvertement en cause l'état de droit, et l'un d'eux poussé vers la sortie par ses propres troupes. On s'arrêtera évidemment sur cette semaine politique pas comme les autres, car le pari du FN reste possible, pour reprendre le titre de l'un des livres de notre invité, le démographe et historien Hervé Le Braz, qui signe un nouvel essai chez Actes Sud, « Malaise dans l'identité », nous en aurons la primeur. Avec lui, on s'interrogera sur l'état réel de la France grâce à deux reportages, l'un en Bretagne, l'autre en région parisienne, c'est notre rubrique « Allons en France ». Au sommaire, comme toutes les semaines, notre sémiologue Mariette Darigrand, qui s'arrêtera ce soir sur le mot « démocratie », Périphérie d'Edouard Zambeau et Les Bonnes Ondes de Sandrine Houdin. Tous deux se sont intéressés à des associations qui viennent en aide aux migrants. À 19h20, au téléphone sonne « Comment faire rebattre le cœur des petites villes ?» Vous pouvez déjà nous appeler au 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Bonsoir Hervé Le Braz.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes historien, donc démographe, directeur de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes surtout quelqu'un qui observe évidemment depuis bien longtemps l'état de la France, état sociologique, géographique, politique. Vous sortirez donc dans quelques jours chez Actes Sud un essai intitulé « Malaise dans l'identité » et vous nous faites l'honneur de venir nous en parler dès aujourd'hui. Malaise dans l'identité, car la question identitaire a pris ces dernières années une place de plus en plus grande dans le discours des politiques, mais aussi chez certains essais. Pourquoi a-t-elle pris cette question de l'identité une telle place ?
Une des hypothèses que je fais dans ce livre à Actes Sud, c'est que c'est lié à un certain dépérissement de l'État. Au fond, on avait deux choses très simples, l'État et la nation. Et on dit d'ailleurs très souvent en France, la France est un État-nation. Et on ne voit pas pourquoi entre les deux s'est immiscé au fond cette notion d'identité, ce qu'elle peut représenter. Donc, à votre question, je n'ai pas de réponse véritable, sauf ce que je viens de dire sur l'affaiblissement de l'État. Mais mon livre a plutôt été de répondre à une autre question.
Qu'est-ce que l'identité, déjà ?
Qu'est-ce que cette identité ?
Est-ce qu'on peut la définir ?
Voilà, exactement, parce que je suis un rationaliste et donc j'aime bien connaître exactement le sens des mots que je manipule. Le sens du mot État est un sens très simple. Il y a bien sûr des définitions qui peuvent être un peu diverses, mais presque tout le monde est d'accord sur le sens du mot État. En revanche, que recouvrait cette fameuse identité ?
Alors pour alors vous tentez la biologie, la religion, la langue, les mœurs, la culture, tout y passe, mais on est bredouille à l'arrivée.
Pas complètement, mais disons, il fallait un fil directeur. Donc je suis parti de deux tentatives de définition de l'identité. Le livre de Brodel, son dernier livre d'ailleurs, « L'identité de la France ». Et puis, le grand débat sur l'identité nationale qu'avait lancé
Nicolas Sarkozy.
Ces deux pôles extrêmes, comme je montre au début. Et entre ces deux pôles, pour choisir, je prends ce petit livre formidable. C'est en fait un essai d'Ernest Renan sur qu'est-ce qu'une nation. Parce que il se pose justement la question à propos de la nation et il envisage les différents items que vous avez cités. Et progressivement, il les repousse en fait. Alors je ne vais pas aller aussi loin que lui sur cette affaire d'identité. Je vais, après avoir effectivement montré que ça ne pouvait absolument pas être une identité de type biologique, donc raciale, ça ne pouvait pas être une identité de type religieux, donc on voit que là-dedans, c'est les racines catholiques de la France qui sont passées au crime.
Alors, vous arrêtez là-dessus et c'est intéressant, hein, parce que vous dites bien l'Église catholique n'est plus vraiment un élément d'identité des Français, seuls 12% d'entre eux vont à la messe, l'Église a une conception archaïque de la femme et de la famille, donc effectivement c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher l'identité, puis surtout vous dites que les religions juive et chrétienne ont eu peu d'influence sur notre civilisation en regard de l'héritage reçu par les Grecs et les Romains. Et vous dites, plutôt que de parler des racines judéo-chrétiennes, on ferait mieux de parler des racines gréco-latines.
Absolument. Absolument. Et parce que j'ai une grande admiration pour, le 5e siècle athénien, d'abord, où on a vu apparaître la philosophie, les mathématiques, la politique, et d'une certaine manière, l'esprit critique au milieu de ces découvertes, on peut le dire, et par au fond un peuple qui était assez peu nombreux. Il y a on l'a souvent dit, il y a un miracle grec, mais il y a aussi, sans que ça soit un miracle, il y a une très grande influence sur nous de ce qu'a été Rome, une influence dans la notion d'État dont on parlait, une influence dans la notion de droit, de loi, et puis plus largement une influence même technique. C'est les Romains ont mis au point des réseaux routiers, des façons même de gérer l'État dont nous sommes encore les héritiers. Et quand je cherche à faire l'inventaire de ce que l'Église nous a apporté, je ne vois pas grand-chose. Et en plus de ça, l'Église, dans un premier temps, a défait justement, s'est acharnée contre l'apport et contre, au fond, la civilisation grecque et la civilisation romaine, comme vous le savez. Donc, je vois pas, bien sûr, l'Église, c'est dans notre passé, mais il y a beaucoup d'autres choses dans notre passé. Il y a les Mérovingiens, il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont mauvaises selon l'appréciation qu'on porte sur elles. Mais c'est pas quelque chose qui peut nous définir actuellement.
Voilà, alors je vous conseille Malaise dans l'identité, Hervé Le Braz, c'est chez Actes Sud dans quelques jours, et c'est très intéressant, dans la période que nous vivons actuellement. On passe, comme toutes les semaines, à l'actualité de la semaine avec ce mix qui a été préparé par Violaine Balès. Semaine politique de toutes les outrances, si l'on peut dire, avec tout d'abord, dimanche, Marine Le Pen en meeting à Nantes, qui s'assied sur l'état de droit, s'en prend à la justice en général et aux fonctionnaires en particulier.
Ces fonctionnaires devront assumer le poids de ces méthodes illégales car elles sont totalement illégales. Et ils mettent en jeu leur propre responsabilité.
Des menaces contre les fonctionnaires, les syndicats sont furieux, y compris chez les policiers.
Les propos de Marine Le Pen sont affligeants. Laisser sous-entendre que les policiers organisent des opérations de barbouzerie, c'est inacceptable.
Le poids des mots, le choc des égos. François Fillon va jusqu'à parler de guerre civile. Mercredi, il annonce sa prochaine mise en examen, parle d'un état de droit violé, d'une démocratie percutée, d'un assassinat politique.
C'est un assassinat en effet. Mais par ce déchaînement disproportionné, sans précédent connu, ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle.
Assassinat vraiment ? Emmanuel Macron lui répond.
Les mots ont un sens. Ça fait plusieurs fois cette semaine que M. Fillon choisit d'utiliser des grands mots. C'est plutôt le signe d'une perte de nerfs ou alors d'une perte de sens des réalités. Il y a des assassinats. Ça ne correspond pas à cela.
À gauche, ça ne va pas fort non plus. Benoît Hamon est de plus en plus seul, y compris au sein de sa propre famille politique. La droite du PS ne veut pas entendre parler de ce candidat que Jean-Marie Le Guen enverrait presque en cellule de déradicalisation.
Je pense qu'il faut qu'il rectifie l'orientation de sa campagne. Il ne peut pas s'adresser simplement à 20% des Français qui, pour telle ou telle raison, sont sensibles à des thèmes d'une gauche radicalisée.
À droite comme à gauche, de plus en plus, la tentation Macron. Daniel Cohn-Bendit franchit le Rubicon.
Si vous voulez vraiment nous éviter Marine Le Pen, Emmanuel Macron est le mieux placé.
J'ai toujours su que la mort aurait un visage familier.
Et pendant ce temps, François Hollande inaugure les chrysanthèmes.
Le 2 juin 2016 a été prononcée la déclaration d'utilité publique pour les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. J'espère qu'il n'y a rien de grave.
Le tir accidentel d'un gendarme qui fait 2 blessés légers à l'arrivée. Mais quelle semaine politique, les amis.
Film documentaire est attribué à Merci Patron, réalisé par François Ruffin.
Dans ce pays, il y a peut-être des descendants, mais surtout, il y a des dirigeants sans cran. Donc maintenant, François Hollande, par exemple, il a l'occasion de montrer sur le dernier fil que son adversaire, c'est la finance, qu'il puisse sortir de l'impuissance et se bouger le cul. Je vous remercie.
Merci Patron.
Merci Patron.
Merci Patron.
Merci Patron.
Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux.
Voilà pour cette semaine politique, semaine qui n'est pas terminée. Hein. Il reste 2 jours, encore pas mal de rebondissements en perspective. Petit commentaire, Hervé Le Braz, sur la semaine politique qu'on est en train de vivre là.
Écoutez, ce que je trouve formidable, c'est que c'est mieux que les épisodes, que des séries à épisodes. C'est même presque mieux qu'au fond, quand on recevait autrefois les journaux comme Tintin ou Spirou, il y avait une incertitude sur ce qui allait être dans le premier numéro, leur prochain numéro. Et là, on ne sait pas très bien de quoi le lendemain sera fait. Avec ma femme, maintenant, on parie à chaque fois pour ou contre. Est-ce que
Fillon va... Vous pariez quoi comme
le dernier pari qu'on fait, c'est bien sûr sur la démission de Fillon. Et donc... ma femme pense que ça sera très rapide, je pense que ça va être plus long, et je crois que dans cette démission, ce qui va être dans la balance, c'est peut-être malheureusement, mais enfin ça sera les sondages. Un sondage donne au premier tour, si c'est Juppé, Juppé devant Marine Le Pen. C'est quand même plus attrayant pour un homme de droite que de voir Fillon derrière Macron et Marine Le Pen. Donc je pense que ça va peser beaucoup dans les quelques jours qui viennent.
Alors au-delà de votre intuition, Hervé Le Bras, parce que quand même vous êtes un grand spécialiste des cartes géographiques de la France, vous avez bien étudié ce qui s'est passé au moment de la primaire du parti Les Républicains, notamment la carte qui a mis Fillon en tête quasiment partout. Vous connaissez aussi la carte électorale du Front National, d'après vous. Quel serait le meilleur choix, justement, pour faire barrage au Front National pour le Parti Les Républicains ?
Pour l'instant, c'est difficile à dire, parce que pour, c'est des jeux... c'est pas un jeu comme on a l'habitude d'un joueur contre un autre. Il y a plusieurs partenaires, et en théorie des jeux, c'est très difficile, quand il y a plusieurs partenaires, de savoir comment va se... On n'a pas de solution en théorie des jeux. Donc c'est ce qui est en train de se produire. Par exemple, quelque part, la présence de Fillon sert Macron, parce que ça sert de repoussoir à une partie de la droite. Alors est-ce que, par exemple, si c'est Juppé qui remplace Fillon, très certainement, ça va être moins bon pour Macron. Est-ce qu'il y aura une fuite vers d'une partie de l'électorat de droite vers l'extrême droite? Je le pense pas. Quand j'avais analysé dans un petit livre pour la collection La République des idées, j'avais analysé toutes les cantonales, les départementales, il y a 1995 circonscriptions, et on voyait que il y a une forte résistance de la droite encore à voter pour le Front National au second tour si elle n'est pas présente. Donc je crois qu'il faut pas non plus avoir des craintes excessives. Ça donne aussi de l'importance au Front National en disant « Oh là là, il monte, il va gagner ». La réalité est que pour l'instant, il ne monte pas. La réalité aussi pour l'instant est qu'il est protégé par Fillon, puisque les affaires dont Marine Le Pen est accusée sont quelque part moins graves pour les Français que les affaires dont Fillon...
Comment expliquer ça ?
Ben, la différence, c'est que Marine Le Pen, au fond, c'est du tripatouillage, semble-t-il, classique que beaucoup d'autres hommes politiques ont fait. Ils cherchent de l'argent pour mener leur campagne. Donc, c'est pas de l'enrichissement personnel. Dans le cas de Fillon, ce dont il est suspecté, c'est véritablement de l'enrichissement personnel. Et ça, pour les Français, surtout actuellement, c'est dur à supporter, si vous voulez, parce que c'est eux qui... peut-être Monsieur Fillon a payé sa femme, mais c'est les Français qui ont donné leur argent par l'impôt pour que M. Pillon puisse payer sa femme.
Alors, Hervé Le Bras, on dit bonsoir à Mariette Darigrand, notre sémiologue qui est ici. Bonsoir Mariette.
Bonsoir.
Le mot de la semaine, Mariette, actualité oblige, vous avez choisi cette semaine le mot « démocratie ».
Voilà, les choses sont un peu troubles. Alors ce grand mot, ce gros mot même, démocratie pour certains, j'avais envie de le réouvrir. Parce que quand on voit comment il est utilisé par tout le monde, dans des sens mais parfois complètement contradictoires, hein, quand Marine Le Pen parle de démocratie, de contrôle par exemple, ça n'a rien à voir avec ce que dit Emmanuel Macron, où lui, évidemment, il passe la démocratie du côté de la liberté individuelle. Hein. Donc ça, déjà, il y a une contradiction. Quand Jean-Luc Mélenchon parle de démocratie citoyenne, c'est pas très éloigné de la démocratie participative de mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et alors quant à François Fillon, dont il nous a dit cette semaine que la démocratie était assassinée en même temps que lui, finalement les gens qui le quittent aujourd'hui, c'est aussi au nom de la démocratie avec une grande majuscule qui est cette espèce de notion à la fois fourre-tout et sacrée.
Ça veut dire que chacun met ce qu'il veut dans le mot démocratie.
Oui, voilà. Alors écoutez, c'est l'occasion de le réouvrir, de remonter le cours du temps et ça va faire peut-être plaisir à Hervé Le Bras parce que là nous allons aller dans l'Antiquité.
Alors, il a l'air réjoui.
Dans l'Antiquité grecque ou gréco-latine, mais disons grec là pour le moment, le démos qui est dans démocratie, alors on dit souvent c'est le gouvernement du peuple, mais qu'est-ce que c'est le peuple, le démos? Le démos c'est pas des gens, c'est le résultat du partage. Démocratie c'est fait sur un verbe grec qui veut dire partager, daestai. et ça donne le démos. C'est une métonymie, c'est-à-dire que par extension du sens, ben, il y a démocratie lorsqu'il y a partage. Ça ne veut pas dire qu'il y a peuple au sens que parfois Marine Le Pen donne à ce mot, c'est-à-dire pouvoir du peuple. Non, c'est le système politique dans lequel il y a partage, et ça s'oppose à l'aristocratie où le pouvoir est gardé par les aristoïdes tout en haut, où la plutocratie, ce sont les riches qui ont le pouvoir.
Alors, à la lumière de toutes ces définitions, Mariette, qu'est-ce qu'on peut dire de l'état de notre démocratie concrètement aujourd'hui?
Il est clair qu'aujourd'hui, associer le partage à la démocratie est compliqué parce que nous sommes dans une société très inégalitaire. Alors, on voit bien qu'il y a la tentation de se dire la démocratie, c'est pas si bien que ça, on va l'acheter à la poubelle, essayons peut-être quelque chose d'un peu plus autoritaire. Là-dessus, évidemment, je crois qu'il faut s'inscrire vraiment en faux. Et en particulier, je reprendrai l'expression de Marine Le Pen, démocratie de contrôle. Là, on a vraiment une contradiction dans les termes. On retrouve en quelque sorte la dictature du prolétariat d'antan, quelque chose comme ça. Ça n'est pas le sujet. Démocratie, c'est le partage. Et donc, partage des pouvoirs. Autrement dit, le vrai sujet, c'est pouvoir et contre-pouvoir. Cette notion de contre-pouvoir, aujourd'hui, elle est éminemment démocratique et je crois qu'on va la retrouver dans l'avenir, là.
Un grand merci, Mariette Darigrand. Un commentaire, Hervé Le Braz ?
Non, c'est très intéressant et on peut même peut-être sur l'histoire de division aller un tout petit peu plus loin étymologiquement parce qu'il semble même que ça vient de zdio, en grec, oui. Qui signifie deux, c'est-à-dire mettre, passer en deux. Et quelque part, la démocratie au départ, démos au départ, c'est le partage des champs entre les agriculteurs, par opposition à un autre mot grec, laos, qui est plutôt le peuple en formation guerrière et en formation hiérarchique.
Hervé Le Braz, un mot du FN auquel vous vous intéressez depuis bien longtemps. Pourquoi, d'après vous, le discours anti-élite y prend de cette façon ici en France, comme on l'a vu par exemple aux États-Unis?
Je pense qu'il y a pour revenir sur la question de la démocratie, la démocratie, c'est pas forcément tout rose. Quand on prend justement les auteurs grecs, le grand livre sur le sujet, c'est La Politique d'Aristote. Aristote, il est partagé sur la question de la démocratie. Il rappelle, grosso modo, qu'il y a démos qui est formidable, mais kratos, c'est un mot que les Grecs utilisent, c'est le mot violence. Donc quelque part, c'est aussi la violence du peuple. Et la loi de la majorité peut poser un problème, c'est pour ça que il y a des corps intermédiaires que on cherche justement à freiner ce qui peut être la fureur populaire, et la fureur populaire ne donne pas un gouvernement qui soit un gouvernement souhaitable, et Aristote en discute longuement. Et alors il y a bien sûr une forme éthérée et idéale de démocratie que Aristote appelle grosso modo la République, mais il y a aussi cette forme dangereuse qui mène au populisme, et avec un autre mot grec, sous la guidée par des démagogues.
On va partir en voyage maintenant.
France Inter.
Allons en France.
Allons en France.
Allons en France. Le
18-20. Voilà, alors parmi les sujets les plus importants pour nos concitoyens en cette année électorale, il y a la question de l'emploi. Alors que le chômage reste à un niveau très élevé avec des inégalités entre les territoires, et vous en savez quelque chose, Hervé Le Braz, certains s'en sortent mieux que d'autres. Exemple, avec ce reportage de Mathilde Dehimy à Vitré, en Ille-et-Vilaine, une ville de 80 000 habitants, 6% de chômage seulement, une commune dans laquelle on fait tout, en tout cas pour aider les entrepreneurs. C'est le cas de ce couple qui a quitté Nantes. Pascal et Delphine ont renoncé à leur CDI pour acheter Théoméca. C'est une entreprise spécialisée dans l'usinage de précision dont le patron partait à la retraite.
Théoméca, c'est une entreprise qui a maintenant un peu plus de 20 ans, dont j'ai repris les rênes il y a un an et demi avec mon épouse. On est 20 salariés maintenant. On a embauché 3 salariés depuis la reprise.
C'est vrai qu'on a vendu la maison, c'est un pari quoi. Puis, on avait aussi l'envie de travailler ensemble. Voilà, on s'est lancé et on ne regrette pas. Ah, c'est de la responsabilité, ça empêche de dormir de temps en temps. Effectivement, il y a 20 familles derrière, donc on n'a pas le droit à l'erreur quoi.
Vous donnez combien de temps ?
Les prêts sur les entreprises, c'est 7 ans. Donc je pense que quand on aura passé cette barre de 7 ans, qu'on n'aura plus la pression de la banque derrière, je pense qu'on pourra souffler un petit peu plus. Mais personnellement et physiquement et moralement, j'espère que ce sera avant et qu'on pourra lever un petit peu le pied. Ouais, d'ici un an, on pourra prendre un petit peu une ou deux journées de temps en temps.
Là, je descends d'un dixième. Tu vas sur ton 10, là. Tu descends d'un dixième, voilà, et tu remontes d'un cran.
Au quotidien, qu'est-ce qui pèse et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ?
La souplesse, peut-être, au niveau des embauches. Et puis, c'est toujours pareil, c'est les charges qui sont énormes, hein, surtout là en début d'année.
On entend toujours parler du nombre de chômeurs, mais on n'en parle pas, comme nous qui avons créé 3 emplois, on n'en parle pas énormément. Même si on est 3 emplois sur 3 millions de chômeurs, c'est pas grand-chose. Mais c'est toujours ça, et on est dans un secteur où on a du mal à recruter, et on n'en parle pas beaucoup, forcément. On est dans un domaine, trouver des tourneurs ou des fraiseurs, c'est assez compliqué. Il n'y a plus beaucoup de formation dans cette activité. Derrière, on n'a pas beaucoup de demandes d'emploi ou de stage.
Ça vous inquiète pour l'avenir de votre société ?
Oui, forcément, ça nous inquiète. Même si on a une population qui est assez jeune, avec une moyenne d'âge à peu près 40 ans, mais on pense toujours soit au renouvellement, soit à une croissance. C'est bien d'acheter une nouvelle machine, mais si on n'a personne à mettre derrière, ça ne sert à rien.
Voilà pour ce reportage signé Mathilde Dehimy à Vitré, une commune de l'Ouest qui se porte bien et qui est donc un contre-exemple de ces villes moyennes en souffrance dont on parlera tout à l'heure dans le téléphone sonne. Mais d'abord, une autre étape.
Allons en France.
Allons en France.
Cette fois, on va à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. C'est un reportage de Géraldine Allot dans une pépinière d'entreprises qui a accueilli 83 sociétés depuis 2005. Des entreprises qui, dans l'ensemble, se portent bien et même très bien.
Bonjour.
Bonjour, je suis Alice Élic, le responsable de la pépinière d'entreprise de la Courneuve.
Elle est là, la pépinière ?
Oui, elle est juste sur notre gauche. Donc nous, on est implanté en plein cœur du quartier des 4000 à la Courneuve. C'est quand même un quartier qui concentre tous les maux de la société.
On va rentrer ?
Bien sûr, allez-y, vous en prie.
Bonjour.
Salut Alice, ça va ?
Bonjour, ça va.
25 entreprises sont hébergées ici. L'idée, c'est de les accompagner, les aider à se développer, c'est ça ?
C'est ça. C'est indéniablement une perche qu'on tend aux habitants de ce quartier-là pour dire si vous avez envie de créer votre boîte, vous avez au pied de votre tour une structure qui peut vous aider.
N'importe quel jeune du quartier, vous l'accueillez ?
Bien sûr, à partir du moment où il arrive avec un projet et ensuite, nous on est là pour l'accompagner de A à Z. On l'aide à faire son business plan, mais on ne le fait pas à sa place. Nous on a envie de montrer la banlieue qui marche. Le maître mot pour la réussite des quartiers, en tout cas des jeunes, ce que je ressens et ce que je leur dis sans cesse, c'est que rien ne vous distingue de quelqu'un qui serait issu de par un intramuros, si ce n'est votre capacité à croire en vos chances. Mais il y a aussi une forme d'autocensure où ils évitent... Il y a des choses qui ne se permettent pas.
Bonjour Yacine.
Bonjour Ali.
Ça va ?
Très bien.
Bien, on y va.
Je t'ai suivi.
Donc Yacine, vous avez un projet d'entreprise ?
Oui. Je suis spécialisé sur les triporteurs. Les triporteurs, c'est les grands tricycles avec un caisson soit à l'avant, soit à l'arrière, qui permet de charger jusqu'à 250 kg. En fait, je fais commencer par la réparation et l'entretien. Et maintenant, je vais passer à l'étape supérieure, c'est va être la personnalisation de triporteurs. C'est un marché qui est en pleine croissance.
Là, je fais aussi le paraffé et le signé. Là, je fais pareil, il faut que tu paraffes celui-ci.
À l'école, c'était pas mon truc en fait d'être encadré. Donc la première étape, c'est que j'ai tout lâché. J'ai arrêté les études et je me suis lancé dans un peu tout. Je cherchais ma voie. Comme j'étais manuel, je voulais toucher à tout. Je me suis spécialisé dans le triporteur, les tricycles. Je me suis lancé officiellement l'an dernier à mon compte, depuis janvier 2016. Et là, je passe à l'étape supérieure.
Il y a un côté un peu intimidant, non, de se lancer ou pas ?
Oui, on a toujours peur. Il y a toujours une peur de ce qu'on connaît pas. Mais après, ça fait partie du jeu.
On va où là ?
Là, on va dans le bureau de Solicom, qui est une agence de communication citoyenne et solidaire.
Je suis Bastien, le fondateur de Solicom, l'open space le plus sympa du 93. Une équipe de choc réunie autour de cette grande table qui fait un peu penser à un repas de famille.
Qu'est-ce que cette diversité qu'on voit là autour de la table, hein, c'est de la glambeur. Qu'est-ce qu'elle apporte à votre fonctionnement, à votre chiffre d'affaires, hein, parlons business aussi.
Je pense que ça nous donne un avantage sur d'autres agences qui visent un peu en vase clos, entre, je vais pas dire entre Courchevel et Saint-Tropez, mais quand même un petit peu. Nous, on partage le quotidien de la plupart des Français, ce qui fait que quand on conseille nos clients sur les tendances, sur des actions à faire, je pense qu'on est, plus pertinent que d'autres.
Sabrina, je peux venir vous déranger quelques instants ? Vous êtes assistante de gestion, c'est vous qui gérez tout le bâtiment ? Quel regard vous portez sur cette pépinière ?
C'est une aventure. C'est-à-dire que les sociétés qui sont ici se défoncent. Vraiment se défoncent. Vous les voyez ici le week-end, un dimanche, à 3h de l'après-midi, comme à 3h du matin, ils sont là. C'est vraiment une aventure. Quand je suis là, quand je les vois tous passer, on a eu à peu près 83 sociétés. Je me dis, Sabrina, que c'est à temps pour toi aussi faire quelque chose.
Voilà pour ce reportage de Géraldine Allot à la Courneuve. Le démographe Hervé Le Braz est évidemment toujours avec nous. Hervé Le Braz, vous avez suivi ces deux reportages, Vitré, la Courneuve, la même volonté de s'en sortir. Ça veut dire quoi que tout à l'heure on parlait du thème de l'identité. Il permet d'éviter des questions qui fâchent, notamment la question des inégalités. Mais on va vers une uniformisation du territoire.
Non, disons que...
En tout cas, au niveau des préoccupations.
C'est un peu le souhait de la République, mais dans la réalité, ce que vous avez montré très intéressant, c'est qu'il y a des régions en France, pas forcément très grandes, mais quand même souvent assez larges, notamment en Bretagne, où le taux de chômage est pratiquement le même qu'en Allemagne. Et puis, il y a des régions où le taux de chômage est 2,5 fois celui de Vitré, c'est-à-dire où on est à plus de 15%. Et je trouve que justement, parce qu'il n'y a pas égalité entre les régions, c'est important d'en tenir compte parce qu'on a des recettes qui sont à prendre dans les régions qui marchent et qui peuvent sans doute être appliquées dans les régions qui marchent moins bien. C'est pas facile parce qu'il y a des causes très profondes aux différences entre les régions qui sont des causes cette fois-ci qui nous plongent dans l'histoire, qui nous plongent dans les mentalités. Mais en même temps, rien n'est définitif. On peut commencer à travailler, à changer en fonction de là où ça marche, faire changer les choses là où ça ne marche pas. Et je trouve qu'il y a un terme qui m'a beaucoup plu dans l'un des deux interviews, c'est ce jeune qui dit ça, bon, c'est risqué, on lui pose la question, c'est quand même, est-ce que vous n'avez pas eu peur et tout, et il a dit ça fait partie du jeu. Et je crois que si, au lieu de parler de risque, ce risque existe, mais c'est une façon assez négative de présenter l'action de jeunes qui se lancent. Je pense qu'il y a une composante qui est vraiment une composante de jeu, de la même manière que pour la recherche scientifique, il y a une composante de jeu, il y a une composante de résoudre des énigmes, il y a une composante d'essayer de faire au fond le mieux possible étant donné les contraintes qu'on a autour. Et c'est une façon très positive de présenter l'activité. Et on sent d'ailleurs dans les régions qui marchent, il y a un esprit assez positif. Je connais mieux une région qui est un peu plus au sud, le Choletais, qui marche très bien aussi, où on retrouve cet état d'esprit.
Alors pour en revenir à la Seine-Saint-Denis, à la Courneuve, on entendait ces jeunes donc dans cette pépinière d'entreprise. On entendait aussi à travers ce que disait Géraldine Allot, cette mixité qui va dans le sens de l'histoire, et c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup, vous.
Oui, nous allons vers une population qui sera de plus en plus mixte. Elle a déjà des origines très diverses, mais elle sera de plus en plus mixte, mais ça veut pas non plus, ça ne sera pas non plus brutal. Ça se fabrique à travers notamment le fait qu'il y ait beaucoup d'unions mixtes en France. Et cette mixité, il faut pas simplement non plus la voir du point de vue des origines des conjoints ou des origines des familles ou de la généalogie. C'est aussi, et on le sentait dans les deux interviews que vous avez fait, c'est aussi une mixité des disciplines, une mixité au travail. On aime beaucoup parler dans la recherche d'interdisciplinarité ou de pluridisciplinarité, mais ça serait mieux de parler de mixité des disciplines. C'est-à-dire, pour résoudre des problèmes, on fait appel à telle ou telle discipline, mais à plusieurs d'entre elles. Et de la même manière, pour au fond faire réussir une entreprise, eh bien, c'est très important d'avoir des personnes qui sont d'origine différente, qui ont des histoires différentes, qui ont alors bien sûr les compétences, c'est la formation, mais il y a des façons de prendre les problèmes qui sont très différentes selon les origines, et leur croisement est sans doute quelque chose qui permet de réussir à la fois dans le travail d'entreprise et dans le travail de recherche.
Alors vous avez fait ma transition, on en vient maintenant à un autre donc de terrain d'étude pas très éloigné, puisque ce sont les migrations.
Périphérie, Édouard Zambon.
Bonsoir Édouard Zambon.
Bonsoir Claire.
Ce soir, Périphérie s'intéresse aux travailleurs migrants, aux plus âgés d'entre eux, on va dire. Coup de projecteur sur la question du logement des Chibani.
Avec une découverte de taille, hein. Les travailleurs immigrés, eux aussi, vieillissent. Si, je vous l'affirme. Il faut donc pour eux aussi, qui ont souvent passé leur vie active d'hôtels meublés en foyer de travailleurs, trouver une solution de logement lorsque la retraite arrive. plus tout à fait de là-bas, pas complètement d'ici, un pied sur chaque rive. Comment peut-on trouver ici le refuge qui permet de continuer à vivre? C'est à cet enjeu qu'essaye de répondre l'association IEM Zamen, en partenariat avec le bailleur social Paris Habitat. La solution est simple pour l'instant, proposer à ces Chibani des appartements en colocation. Le moyen de réduire les coûts, de favoriser la solidarité au moment où la dépendance menace et d'assurer la mobilité entre la terre d'accueil et le pays d'origine. Près d'une vingtaine de ces vieux hommes vivent ainsi dans des appartements partagés, dans un nid qui leur permet de continuer à vivre comme ils l'ont toujours fait, en oiseaux migrateurs.
Ça c'est la salle. De l'autre côté c'est la cuisine. Il y en a deux chauffages. Ça c'est des toilettes avec le...
Avec la douche.
Ah ouais, avec la douche et tout là.
Ça c'est votre chambre.
Il y a un chauffage, il y a tout ce qu'il faut.
C'est un appartement en rez-de-chaussée qui a été entièrement rénové, aménagé, équipé, meublé pour pouvoir tourner la page du mauvais logement, surtout quand ils sortent des hôtels meublés ou des foyers ou tout simplement des fois de l'errance aussi. Moncef Labidi, je suis directeur de l'association IEM Zamen qui gère le dispositif des domiciles partagés. On a l'impression de leur offrir peut-être le bilan d'une vie, c'est un peu dur, parce qu'on fait le constat que ces personnes qui sont venues de manière provisoire ont toujours été logées de manière provisoire. Ils ont été logés à l'enseigne de la précarité. D'abord, ils viennent avec les habitudes de l'insalubrité, de la suroccupation, du mal logement, du logement indigne. À tel point que, par exemple, il y a un doute quand ils intègrent en se disant « Est-ce vraiment à nous ? C'est trop beau pour nous. »
Vous êtes arrivé quand dans cet appartement ?
Ça fait presque deux ans et demi, là.
Presque deux ans et demi. Ouais. Et avant ?
Avant, j'habite à l'hôtel, là.
Avant, vous avez habité dans un hôtel pendant combien d'années ?
Ça fait 32 ans que j'habite là-bas, là, jusqu'à l'entrée.
32 ans, vous avez habité dans un hôtel ? Le même hôtel, le même travail ?
Ah oui, je n'ai pas changé.
Vous étiez où au travail ?
Au Fouquet's.
Au Phuket.
Oui.
Pourquoi vous n'avez jamais loué un appartement ?
Oh, je dis peut-être que je ne reste pas ici, et voilà.
Vous pensiez que vous alliez retourner en Algérie ?
Ah oui.
Ouais.
Mais non, on ne tourne pas. On va et vient, voilà. La vie, ça passe.
Périphérie sur France Inter.
Il y avait un sérieux problème autour de la question des vieux migrants, parce que personne ne l'a vu venir. Tout se passe comme s'ils étaient un peu piégés par un événement qu'ils n'ont pas vu, et que leur vieillesse, maintenant... s'accomplit maintenant dans un pays, dans le pays qui les a accueillis travailleurs. Il y a quelque chose qui relève de l'incohérence.
On découvre que les travailleurs immigrés vieillissent.
Aussi, comme tous les autres. Ils n'ont pas cette vocation à ne jamais vieillir. Ils n'ont pas cette vocation à être éternellement migrants ou immigrés.
Symboliquement, en les installant ici à 75, 80, 90 ans, se pose aussi la question de mourir ici.
Oui, ça c'est extrêmement douloureux.
Vous êtes arrivé avec quoi ?
Ben, j'ai apporté mes affaires, là. Après la valise et tout machin, là.
Que des valises ? Vous aviez rien d'autre ? Pas de meubles ? Pas de vaisselle ? Toute votre vie, là ?
Oui.
C'est trois valises ?
Oui, t'as trois valises.
Vous vous sentez chez vous, ici ?
Ah oui, c'est comme chez nous, là. L'appartement, c'est des paradis, hein.
C'est des paradis, les appartements ?
Ah oui, l'appartement, c'est vraiment un paradis. Hein. Maintenant, je suis libre.
C'est où, chez vous ?
Deux fois ici, deux fois là-bas, là. Quand j'ai fatigué ici, hein. Je vais aller là-bas. Quand je fatigue là-bas, je viens ici. Comme un oiseau.
Merci beaucoup, Édouard Zambeau.
À la semaine prochaine.
C'était beau, l'image de l'oiseau. On s'intéresse à présent aux migrants récemment arrivés en France. Avec les bonnes ondes de Sandrine Houdin, on aura les deux palettes ce soir. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Alors ce soir, vous nous faites découvrir, vous aussi, une association, une toute jeune association qui vient en aide aux migrants. La Fabrique Nomade, une association qui les aide à renouer avec leur passé. Alors qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que beaucoup de migrants arrivent en France, bien sûr, et font d'abord face à l'urgence. Il faut se nourrir, il faut se loger, trouver de quoi vivre, et justement pour vivre, eh bien beaucoup délaissent leur métier d'origine. Ils étaient potiers, ils étaient céramistes, ils étaient couturiers, tapissiers, sculpteurs. Ils se retrouvent à faire la plonge, à être caissiers, hommes de ménage ou agents de sécurité. Et la Fabrique Nomade, donc, veut simplement les convaincre de renouer avec leur vrai métier.
D'où le nom La Fabrique.
Exactement, parce qu'elle leur propose déjà de venir retravailler en atelier pour qu'ils s'y remettent. C'est pas forcément évident. Et puis La Fabrique les accompagne aussi, c'est très important, dans le parcours concours administratif, pardon, pour la reconnaissance de leurs compétences. Le but étant bien sûr à terme qu'ils exercent leur vrai métier en France.
Alors, vous vous êtes rendue, Sandrine, dans un de ces ateliers. Et là, vous avez rencontré Abou, 56 ans, venu de Tchétchénie. Vous l'avez vu alors qu'il était en plein travail avec deux designers.
45 cm, c'est pas mal, ouais.
45 cm.
Bonjour.
Bonjour.
Ça vous fait plaisir de reprendre votre métier?
Abou, vous êtes приятно заниматься опять своей работой?
Да, конечно, приятно.
Oui, bien sûr, ça me fait plaisir.
Практически я всю жизнь этим живу.
Je vis avec ça depuis toute ma vie.
Да, недавно пор я начал улыбаться.
Depuis peu longtemps, j'ai commencé à sourire de nouveau.
Потому что я вот, скажем так, увидел свет.
J'ai vu la lumière au bout du tunnel noir.
Le premier, mais évidemment, la barrière de la langue, l'absence de reconnaissance de leur expérience professionnelle et même qualification, la dévalorisation d'eux-mêmes, et ils renoncent.
C'est parti de quoi, Fabrique Nomade ?
C'est parti d'un échange avec ma mère, j'avais 35 ans, et j'ai découvert qu'elle avait exercé le métier de brodeuse dans la médina de Tunis. Elle n'a jamais parlé de son métier, je ne l'ai jamais vu broder. Une fois arrivée en France, elle a abandonné. Et moi, je l'ai ignoré pendant 35 ans.
Mais comment l'expliquez-vous, ça ?
C'est lié, je pense, à la difficulté ou la violence, en fait, de la migration, de quitter son propre pays. On laisse une part de soi dans son pays. Et en fait, quand on arrive, il y a une telle violence qu'on oublie ce qu'on est.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce qu'a vécu votre maman, vous le retrouvez avec tous ces migrants dont vous vous occupez ?
Tout à fait.
Tu as peu
à faire. Tu peux reponcer ces pièces-là ?
Vas-y.
Ok.
Il vous bluffe ?
Ah, carrément.
En quoi ?
Bah, il a un savoir-faire qui a tendance à disparaître en France, donc on est content, nous, de voir un peu comment il exerce sa technique et son savoir-faire.
Ça veut dire qu'il vous apprend ?
Ah, énormément, oui.
Exemple ?
Bah, exemple, l'ornement, comme on voit dans les immeubles haussmanniens, avec des moulures partout, on ne sait plus le faire, il y a très peu de gens qui savent le faire encore. Et Abou, il est super bon là-dedans.
Une tapissière algérienne qui faisait des tapis qui étaient pourtant exportés en Europe. Arrivée ici, elle est devenue mère au foyer. J'ai rencontré également un menuisier afghan qui aujourd'hui fait ménage dans un restaurant. Il y a cette brodeuse vietnamienne qui est depuis 10 ans caissière.
Ça vous apporte quoi, vous, Inès ?
Bah, pour moi, c'est une revanche sur l'histoire. C'est celle de ma mère que je porte et qui me porte à travers ce projet. La migration, les immigrés, c'est pas juste des petites mains. Ce sont des potentiels. On accompagne des professionnels, artisans, et on ne les considère pas comme des réfugiés. Ils reprennent en main leur vie. Ils reprennent possession de leur vie. Vraiment.
Merci Sandrine Houdin pour ce reportage. Toutes les infos sur cette association sur lafabriquenomade.com pour ceux qui le souhaitent. Hervé Lebras, vous avez suivi ces deux reportages. Donc La Fabrique Nomade qui s'occupe de ceux qui viennent d'arriver le plus récemment. Cette autre association qui s'occupe des vieux Chibani. Qu'est-ce que vous en avez retenu ?
Sur ces deux problèmes assez différents, le problème du vieillissement des travailleurs migrants de la première vague, celle d'avant 1974, qui était très souvent en fait des paysans pauvres qui venaient du sud de l'Algérie ou du Maroc, s'est posé assez tôt. Déjà dans le film de Yamina Benguigui qui s'appelle Mémoire d'immigrés, très beau film, la question est posée à l'interview justement des travailleurs venus du Maghreb, âgés, qui justement ont de la difficulté, ils peuvent pas vraiment retourner au pays parce qu'ils toucheraient pas leur retraite. Enfin, il y avait beaucoup de complications. Et ce que j'ai entendu là est assez satisfaisant, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des solutions pour ce qui est un vrai problème. Et alors ça m'amène au second point, qui est que la migration a beaucoup changé dans les années récentes. Ce n'est plus du tout une migration de paysans pauvres venant du sud de l'Algérie ou du Maroc. L'année dernière, sur les 220 000 cartes de séjour qui ont été données, donc sur les entrées officielles en France, 65% des personnes avaient ou le bac ou un diplôme universitaire. Et alors là, effectivement, se pose une question qui se pose de plus en plus dans les pays développés, qui est la reconnaissance des compétences et des diplômes de ceux qui arrivent. Ce ne sont plus du tout, ça ne correspond plus à l'image du migrant que l'on a, du pauvre qui vient pour survivre. Désormais, c'est des personnes qui ont des compétences et qui viennent non pas pour survivre, mais surtout pour se réaliser, qui viennent pour que justement leurs compétences soient reconnues. Et c'est un peu amer qu'elles ne le soient pas vraiment. Par exemple,
on voit que c'est une association. Hein,
alors
c'est
à
pas
ce moment-là, grâce aux associations,
qui s'occupent
de ça. Grâce aux associations, on peut en partie remédier, mais il y a notamment par exemple, le cas le plus frappant, c'est pas en France, c'est au Canada, où le Canada ne reconnaît pas les diplômes de médecin passés dans la plupart des pays. Donc un médecin roumain ou un médecin égyptien qui arrive au Canada va devenir infirmier. On lui dit, mais vous pouvez redevenir médecin en suivant des études au Canada, mais enfin, vu le temps que prennent les études de médecin, c'est pas possible. Donc on a un véritable problème de reconnaissance des compétences. Et quand, si on fait un branchement sur les premiers interviews que vous avez fait cette fois-là à Vitré, par exemple, où ces personnes dans leurs petites entreprises avaient du mal à trouver des spécialistes. On se dit, mais il y a quelque chose qui marche pas, parce que peut-être ces spécialistes y sont parmi ces migrants, et particulièrement c'est chez jeunes migrants, parce que l'âge moyen auquel les 220 000 personnes sont entrées en France l'année dernière avec un titre de séjour légal, l'âge moyen est 26 ans. C'est donc des personnes qui ont, quand ils ont une formation, un début de formation ou une formation déjà assez complète, qui sont compétents.
Une dernière question, Hervé Lebras. Au-delà de ceux qui arrivent directement, les migrants, il y a la question des enfants d'immigrés à laquelle vous vous êtes intéressé aussi. Pourquoi est-ce qu'en France, ils ont plus de mal que les autres à trouver du travail, contrairement à d'autres pays ?
Oui, c'est contrairement à d'autres pays. C'est peut-être un peu fort. Dans la plupart des pays, il y a des difficultés. Mais en France, les difficultés sont très grandes. Alors, l'argument habituel est de dire c'est parce qu'il y a de la discrimination. C'est pas seulement cela, malheureusement.
Vous dites que c'est notre façon de fonctionner, le règne du piston quand même qui existe en France.
Oui, alors j'essaye d'éviter le mot piston, qui est un mot un peu fort, qui laisse entendre que la personne qui va être choisie ne mérite pas d'être choisie. Mais le problème avec l'importance du chômage et avec à nouveau cette question de formation, c'est-à-dire la France est maintenant de plus en plus diplômée. On entend dire tout le mal qu'on peut de l'éducation ou de l'illettrisme et tout, peut-être qu'il y a des difficultés, mais je peux vous donner un exemple très simple. En recensement de 1982, seulement un ouvrier sur quatre avait un diplôme CAP ou BEP ou mais éventuellement bac technique. Actuellement, 30 ans après, c'est deux ouvriers sur trois qui ont un diplôme, et en général, c'est un bac technique ou technologique. Donc on a affaire à une population qui est beaucoup plus éduquée. Mais du coup aussi...
Quand
il y a une place, un emploi se présente, la concurrence est plus grande. Et quand vous arrivez à égalité pour un emploi, ce qui est maintenant de plus en plus fréquent, plusieurs candidats sont des candidats de valeur, c'est le candidat qui a un réseau qui l'emporte. Ça, c'est inévitable en France, c'est celui dont on connaît le père ou celui, il y a un ami, etc. Et là, de ce point de vue-là, les enfants d'immigrés sont désavantagés, mais c'est beaucoup plus dur de s'attaquer. Déjà, c'est dur de s'attaquer à la discrimination, mais s'attaquer au réseau, là, on tombe sur un des fondements de la société française, hélas.
Voilà. Hervé Lebras, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour le téléphone sonne, qui sera consacré aux petites villes et villes moyennes, avec cette question, comment faire rebattre le cœur de ces villes. Vos questions, vous remarquez dès maintenant sur le net, avec le mot-clé Telson. Vous avez aussi le téléphone 0145 26 000.
Tous les dimanches à 9h10 sur France Inter, Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Après le Brexit, après l'élection de Donald Trump, c'est au tour de la démocratie hollandaise d'être sur la sellette. Pour les législatives, Geert Wilders, le leader du parti anti-islam, fait la course en tête dans les sondages.
Chaque deux ou trois jours, il envoie un nouveau tweet plein d'horreur sur les musulmans, par exemple.
Le scrutin dont toute l'Europe va guetter les résultats aura lieu le 15 mars.
Interception, le dimanche matin sur France Inter, à 9h10. Vendredi 17 mars, Sophie Janin emmène la maîtrise, le chœur et l'orchestre philharmonique de Radio France dans un voyage musical éclectique.
En composant ses folk songs, Vaughan Williams chante l'éveil des saisons en Angleterre. Dans sa messe en ré, Dvorak utilise les rythmes dansants de sa bohème natale.
Vendredi 17 mars à 20h à la Maison de la Radio.
Retrouvez ces deux œuvres riches de thèmes populaires.
Réservation maisondelaradio.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 19h. Le journal, bonsoir Sébastien Paour.
Bonsoir. Y a-t-il des proches pour sauver le candidat? De moins en moins après les nouvelles défections dans l'équipe Fillon, dont celle de son porte-parole Thierry Solaire et de l'UDI. Y a-t-il un nom pour sauver la droite? Celui d'Alain Juppé de plus en plus. Plan B est sans doute discuté aujourd'hui entre Nicolas Sarkozy, Gérard Larcher et Bernard Accoyer. Alors que François Fillon tient bon, lui, il appelle ce soir ses partisans à résister calmement dans une vidéo. Au sommaire également ce soir, la disparition des trois ADEC, affaire hors norme et des victimes peut-être encore en vie, selon le procureur de Nantes, vous l'entendrez. Banksy qui ouvre un hôtel à Bethléem, la mort de Raymond Coppa, légende du football français, le deuxième album de Superpose, et puis le temps du week-end, vent, pluie, neige et des températures en baisse avec ça.
France Inter.
Qui imaginait qu'on parlerait du candidat de la droite à l'Élysée de cette manière, hein, François Fillon qui tente de poursuivre sa campagne, on va y revenir, avec une équipe de plus en plus réduite et pour un message presque inaudible, tant le vacarme de l'affaire Pénélope couvre tout et les événements de ce vendredi vont dans le même sens. Bonsoir Estelle Schmitt.
Bonsoir.
François Fillon est de plus en plus isolé, Alain Juppé de plus en plus disponible.
Ah oui, les défections se poursuivent. Thierry Solaire, ce matin désormais ex-porte-parole de François Fillon, Nadine Morano, le sarkozyste Gérald Darmanin. Manin sont plus de 100 élus qui ont lâché François Fillon. Le départ des juppéistes se poursuit cet après-midi. Virginie Calmels, première adjointe à la mairie de Bordeaux, elle explique dans un communiqué que François Fillon n'est plus le candidat du Rassemblement et s'il ne peut plus poursuivre ce combat, eh bien c'est Alain Juppé qui aura la légitimité. Du côté des jeunes avec Fillon, une partie du bureau a démissionné, appelle au retrait du candidat. France Pluriel, c'est un rassemblement d'acteurs associatifs, d'élus locaux ou de chefs d'entreprise, eh bien suspend également sa campagne pour François Fillon. Quant aux centristes de l'UDI, ils annoncent officiellement ce soir le retrait de leur soutien à François Fillon. Question d'éthique politique selon Jean-Marie Bockel, sénateur du Haut-Rhin et vice-président de l'UDI.
Nous avons soutenu François Fillon jusqu'à l'extrême limite. Beaucoup d'entre nous, depuis les mises en cause très fortes de l'institution judiciaire, ne pouvons pas être en phase avec cela. Nous, on croit profondément dans la séparation des pouvoirs. Et avoir une campagne électorale où il y a à la fois des propos très durs sur les risques de guerre civile, sur l'institution judiciaire, nous, on ne s'y retrouve pas. Nous, on souhaite qu'on revienne très vite sur le terrain des idées, du projet. Et pour nous... C'est ça la condition d'être présent au deuxième tour et non pas de partir dans un processus de victimisation. Je pense que c'est pas la bonne méthode.
Et Jean-Marie Bockel lance un appel à Alain Juppé pour qu'il fasse un ticket avec Jean-Louis Borloo, figure du centrisme. Alain Juppé décidément très sollicité mais qui pour le moment reste silencieux.
Alors voilà pour les défections et la recherche donc de ce plan B. François Fillon, lui, fait mine de continuer.
Et son agenda est très rempli. Demain, grand raout au doc d'Aubervilliers. François Fillon présente son projet devant 3000 personnes issues de la société civile. C'est une sorte de réponse à Emmanuel Macron qui lui aussi mise sur la société civile. Le but, c'est de prouver que le programme économique de François Fillon tient davantage la route que celui d'Emmanuel Macron, mais également celui de Marine Le Pen. Le véritable test de ce week-end, c'est dimanche, le grand rassemblement place du Trocadéro, soutien à François Fillon. C'est lui qui sera déterminant pour la suite, répètent les fidèles fillonistes. La mobilisation évidemment décisive. Justement, dans une vidéo ce soir, François Fillon s'adresse aux Français.
Je vous demande de résister et plus encore, je vous invite à aller de l'avant avec la résolution des hommes et des femmes libres. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15h, place du Trocadéro. Avec la force calme et la force assurée de ceux qui respectent nos institutions démocratiques, vous ferez entendre votre voix.
Voilà, appel à la mobilisation, mobilisation populaire et mobilisation d'élus, même si là aussi certains ténors se sont désolidarisés. Valérie Pécresse, présidente de région Île-de-France, met en avant des risques pour la sécurité, ou encore Jean-François Copé. Dans un tweet, il explique qu'il ne se rendra pas au Trocadéro car il n'approuve pas le mot d'ordre. Il faut dire que dans un premier temps, le rassemblement avait été présenté comme étant contre les juges rouges. François Fillon, lui, pourrait s'exprimer dans les médias dimanche soir, peut-être dans un 20h, rien de confirmé. Tout dépend si la manifestation est un succès. Il a en tout cas déjà prévu deux meetings la semaine prochaine à Orléans mardi, à Besançon jeudi, preuve qu'il n'a pas l'intention d'abandonner.
Alors le rassemblement de dimanche après-midi au Trocadéro que vous évoquiez, merci Estelle, certains s'y préparent malgré les soucis logistiques dont on vient de parler également, liés aux nombreuses défections. Christophe Vincent a rencontré des militants lyonnais, pas bouleversés du tout par l'hémorragie qui divise le parti.
Au siège de la Fédé, on prépare les tractages demain sur les marchés et le déplacement à Paris. Ulysse et Thibault, étudiants fillonistes, n'ont que faire des nouvelles défections dans leur camp.
On a simplement envie de parler que des présents. Voilà, sous le pont d'Arcole, les généraux sont restés en place, ils se sont battus, ils ont gagné. Et on espère la même victoire de François Fillon.
C'est dommage de voir des gens qui partent, évidemment, mais les militants sur le terrain restent tous. Et c'est avec ces militants-là qu'on pourra gagner, plus qu'avec des gens qu'on voit dans les médias, et c'est pas eux qui font l'élection.
Daniel Duchesne revendique 45 ans de gaullisme et son parler cru.
L'expression consacrée, c'est les rats qui tiennent le navire. C'est un non-événement.
Quant à la solution Juppé, les fillonistes l'évacuent aussi vite, à commencer par le sénateur François-Noël Buffet.
Il n'y a pas de plan B, il y a un candidat engagé dans cette campagne et nous le soutenons.
On a un candidat qui a fait 70%, un autre 30%. Je pense que le résultat est sans appel. Il n'y a pas d'autre alternative, on prend notre candidat et on ira jusqu'au bout avec lui.
Ah non, il n'y a pas de plan B. Non, mais non, mais non. D'abord, pour qu'il y ait un plan B, il faudrait que François Fillon se désiste. À mon avis, il ne se désistera pas. L'incident est clos.
Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Et en réponse au rassemblement du Trocadéro, plusieurs contre-manifestations sont d'ores et déjà annoncées dimanche, place de la République à Paris, notamment pour dénoncer la corruption des élus. Comme depuis les révélations du Canard enchaîné, les participants sont invités à venir avec des casseroles. Enfin, dans le dossier des assistants parlementaires du Front National, Marine Le Pen a reçu une nouvelle convocation des juges. Elle fait savoir qu'elle ne s'y rendra pas. Convocation en vue d'une éventuelle mise en examen. Robert Hu, lui, est désormais en marche. L'ancien patron du Parti communiste estime qu'Emmanuel Macron est le seul à pouvoir atteindre le second tour de la présidentielle avec son projet progressiste, selon lui. Robert Hu qui demande néanmoins à l'ancien ministre et banquier une loi sur la transparence des finances. La politique, la campagne et les idées reçues à présent. On s'arrête ce soir sur cette assertion au lendemain de la présentation des programmes des candidats pour les médias. L'audiovisuel public coûte cher. Bonsoir Alexandra Akoun.
Bonsoir Sébastien.
Évidemment Radio France et donc France Inter sont concernés.
Oui, en plus de Radio France, l'audiovisuel public c'est France Télévisions, Arte France, France Média Monde, TV5 et l'Institut National de l'Audiovisuel. L'ensemble est principalement financé par la contribution à l'audiovisuel public, ancienne redevance, plus des ressources propres comme la publicité. France Télévisions touche également la taxe sur les opérateurs télécoms, la fameuse taxe Copé. Pour 2017, l'enveloppe allouée au secteur est de 3 900 000 euros, un budget bien inférieur à l'Allemagne ou à la Grande-Bretagne, où on est plutôt entre 6 et 7 milliards d'euros. Et quand on voit ce que ça coûte aux Français, eh bien là aussi, on est bien en dessous de ce qui se fait chez nos voisins. Cette année, la contribution à l'audiovisuel public est de 138 euros, 1 euro de plus que l'an dernier. Les Britanniques, eux, s'acquittent de 171 euros par an. En Allemagne, la redevance est de 216 euros. 238 en Suède, 246 euros pardon, en Suisse.
Mais cet effort est-il bien réparti ?
Eh bien, chez nous, il pèse sur les foyers soumis à la taxe d'habitation qui ont au moins un poste de télévision. Or, ceux qui ont des tablettes ou des ordinateurs, eux aussi ont accès aux programmes du service public. En Allemagne, le système a été réformé. Tous les foyers payent, c'est obligatoire. En Grande-Bretagne, impossible de regarder ou d'écouter les programmes de la BBC par Internet. Si on n'a pas réglé sa TV license et si on fait une fausse déclaration, l'amende peut atteindre 1 000 livres.
Revenons en France pour terminer, Alexandra. Que proposent nos candidats ?
Eh bien, Benoît Hamon pour le PS et pour l'élargissement de l'assiette de la contribution. Aux résidences secondaires ou à tous les supports, c'est encore flou. L'idéal pour lui serait un financement 100% public. Mais Benoît Hamon convient qu'il serait compliqué d'y arriver. François Fillon, pour les Républicains, a tranché contribution étendue aux tablettes et ordinateurs. Mais en échange, le service public devrait rationaliser le nombre de chaînes. Moins de chaînes également pour Emmanuel Macron, qui souhaite plus de pubs sur les antennes publiques pour assurer leur développement. Enfin, au FN, pas question d'augmenter ce que payent les Français, mais un bon dégraissage du mammouth saoudien, surtout des gros salaires.
Alexandra Akoun, programme au banc d'essai et idées reçues. Vous savez que le dossier reste disponible sur franceinter.fr.
Décidément, Sébastien, l'affaire Troadec est une affaire hors norme.
C'est le procureur de la République de Nantes qui le reconnaît au regard des pièces du puzzle qui ne s'assemblent toujours pas. La disparition des 4 membres de la famille à Orvault, la voiture du fils retrouvée à Saint-Nazaire, la carte vitale de la fille près de Brest. Le procureur Pierre Sénèze qui n'exclut aucune hypothèse au micro de Pascal Boucherie.
Les scénarios, c'est peut-être un drame familial, c'est peut-être l'intervention d'un tiers, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'ils ne sont pas là, et ce que je sais, c'est que 3 membres sur 4 de la famille ont saigné. C'est incontestablement une scène d'une grande violence, Incontestablement, les blessures qui ont été occasionnées aux personnes sont très graves vu les pertes de sang. Bon, donc oui, logiquement, on peut penser qu'il y a peut-être des personnes qui sont décédées. Nous n'avons retrouvé dans la maison aucun objet, aucune arme qui pourrait avoir été utilisée pour commettre les blessures. Le fait qu'on retrouve comme ça disséminés en différents endroits des objets utiles à l'enquête, est-ce que nous avons affaire à un jeu un peu morbide, de quelqu'un qui s'amuserait à balader en quelque sorte les enquêteurs? Certain que si on continue dans les jours qui viennent à retrouver ici ou là des objets un petit peu comme des petits cailloux qui auraient été semés, cette hypothèse-là va se confirmer.
Plusieurs centaines de dentistes devant le ministère de la Santé cet après-midi à Paris. Les 37 000 chirurgiens dentistes libéraux étaient appelés à la grève pour protester contre une réforme de leurs tarifs. Un avenant qui prévoit de revaloriser certains actes de base comme les caries et le détartrage en échange d'un plafonnement de ceux liés aux prothèses. Grève aussi des contrôleurs aériens. La semaine prochaine, l'aviation civile prévoit jusqu'à un tiers des vols annulés. Et puis le conseil de surveillance de PSA donne son feu vert au rachat d'Opel. L'opération devrait être annoncée officiellement lundi.
Il est 19h11 sur France Inter. La suite du journal, Sébastien Paour.
La reprise des exportations prendra du temps, mais c'est un début dont se félicitent les éleveurs français. La Chine a assoupli aujourd'hui l'embargo qu'elle impose au bœuf tricolore depuis plus de 15 ans, conséquence de la crise de la vache folle. Ça concerne la viande désossée de bovins de plus de 30 mois. La Chine est le deuxième importateur de viande de bœuf au monde. Je vous le disais en titre, Banksy n'en finit pas de surprendre. Après ses œuvres peintes sur les décombres de Gaza dévastés, c'était en 2015, l'artiste britannique dévoile un hôtel à Bethléem en Cisjordanie, un hôtel baptisé Hôtel Walled Off, c'est-à-dire coupé par le mur, qui se trouve donc, Étienne Monin, à côté du mur de sécurité construit par Israël.
Et cet hôtel ressemble à l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Il mélange le luxe et l'absurde avec une sculpture de singe habillé en groom à l'entrée et un piano mécanique près du bar. La nouvelle œuvre de Banksy est plantée à quelques mètres du mur. Les 9 chambres seront accessibles dans 12 jours pour un public local ou international, explique le gérant Wissam Salsa.
Tout le bâtiment est rempli d'œuvres d'art incroyables. Donc c'est pour les amoureux de l'art et pour tous ceux qui voudraient toucher du doigt la réalité de Bethléem et de la Palestine.
Banksy fait partie du décor depuis des années à Bethléem. On peut croiser des touristes qui cherchent ses graphes sur le mur de séparation. L'artiste a été très inspiré par le conflit israélo-palestinien. Il a fait une incursion à Gaza après la guerre de 2014. On peut trouver des produits dérivés de ses œuvres comme les magnettes ou les ouvre-bouteilles dans le secteur, mais jusqu'à aujourd'hui, son travail dans la région avait une portée artistique et politique. Il inclut maintenant une démarche commerciale que regrettent certains Palestiniens. Jérusalem, Étienne Monin, France Inter.
La Turquie en colère contre l'Allemagne. Ankara accuse Berlin d'œuvrer contre le président Erdogan. Son ministre de l'économie devait s'exprimer hier devant la communauté turque du pays, 1,5 million de personnes. Mais le meeting a été annulé à cause d'un manque de place officiellement. 2 autres réunions l'ont été aussi, qui devaient se tenir dimanche. Une rencontre entre les chefs de la diplomatie des deux pays est prévue mercredi. Tous les terrains de foot de France en Ligue 1 et en Ligue 2 s'arrêteront une minute ce week-end pour rendre hommage à celui que tous saluent comme une légende du ballon rond, Raymond Coppa, mort ce matin à l'âge de 85 ans. Raymond Coppa, même si vous n'appréciez pas le football et si vous ne vous y intéressez pas, vous connaissez son nom. Première star du foot français, auquel se sont ajoutés ensuite Platini et Zidane. Ballon d'or 58, vainqueur de 3 Coupes d'Europe avec le Real Madrid. Coppa s'était révélé au Stade de Reims où il a joué entre 51 et 56 avec 2 titres de champion de France à la clé. L'expression « football champion » c'était à propos de son jeu. Alors évidemment, aujourd'hui, les Rémois veulent une statue pour le fils d'émigrés polonais d'1m68, Vianney Smiarowski.
À l'annonce de la mort de Raymond Coppa, les réactions dans les rues de Reims, ça donne souvent ça.
Oh merde!
Ah bah oui, ça me touche.
C'est vrai, sans déconner. Oh merde, oui, 85 ans.
Parce que pour Dario, 71 ans, Raymond Coppa, c'était...
C'était un grand joueur mondial, c'était un sacré joueur. Il y avait tout, hein. C'est difficile de trouver des joueurs comme lui, alors.
Une véritable légende du football des années 60 et du Stade de Reims. Pour Eric, 56 ans, Raymond Coppa avait quelque chose de plus que les autres.
Déjà, par rapport au football, déjà, c'est un des précurseurs qui a fait évoluer le football, au niveau que ce soit tactique, et ainsi de suite, quoi. Au niveau de la pratique. Dans le jeu. Ça nous a aussi donné l'envie de jouer au football.
Qu'ils aiment ou pas le football, les gens qui ont connu la génération de Raymond Coppa sont unanimes. Au-delà de la technique de jeu, c'est son tempérament qui séduit. Didier, 68 ans, est ému. dimanche à l'annonce de sa mort.
Oh bah, le meilleur joueur de France. C'est non, il avait le cœur sur la main aussi. Il a fait des belles choses. Hein. Dans son pays d'origine, il a aidé pas mal de pauvres, pas mal de gens, d'après ce qu'ils ont dit à la télé, à la radio.
Des exploits inégalés, un précurseur au grand cœur, l'ensemble du monde du football et bien sûr le stade de Reims rend hommage à celui qui a écrit certainement les plus belles pages du club de foot rémois. À Reims, Vianney Smiarovski, France Bleu Champagne-Ardenne pour France Inter.
En 1956, Raymond Kopa est appelé par le Real Madrid donc et devient le premier joueur français à quitter le pays. Il décrochera 3 Coupes d'Europe avec le club madrilène. Club entraîné aujourd'hui par une autre légende, Zinedine Zidane, qui lui rend hommage au micro de Marie-Hélène Balestero.
C'est lui qui nous a montré quelque part de toute façon le chemin, c'est lui qui a ouvert justement ça, c'est lui le premier qui est venu au Real Madrid à une époque dont c'était pas facile de venir jouer dans un club comme celui-là. Et il l'a fait de la plus belle des manières, c'est-à-dire qu'il a marqué son histoire aussi. On est très touchés. Mais ça a été un exemple, enfin, ça a été un exemple pour tout le monde, donc moi c'est quelqu'un qui nous a montré la voie. Non seulement avec Madrid, l'équipe de France, enfin, le joueur qu'il a été, la personne qu'il a été. Je pense qu'à chaque fois qu'il est venu ici, il sentait le carigne de tout le monde. Le club l'a toujours placé très haut et c'est logique. Moi qui ai pu avoir une petite relation aussi avec lui, de parler de football quand je pouvais être avec lui, ça a toujours été des moments agréables.
Juste Fontaine qui a toujours le record du plus grand nombre de buts dans une Coupe du Monde, 13 en 1958. Juste Fontaine dit qu'il pleure à un frère aîné. François Hollande salue la légende Kopa qui alliait, dit-il, l'intelligence du jeu à une technique remarquable. Lui aussi dans sa discipline est presque une légende, Martin Fourcade, qui ne peut plus être rejoint au classement à 6 courses de la fin de la saison et qui décroche donc sa 6e Coupe du Monde de biathlon. Le Français a terminé 3e du sprint ce midi en Corée du Sud. De la musique à la page culture du vendredi avec la sortie du 2e album de Superpose, un musicien originaire de Caen qui livre un disque électronique à écouter dans son canapé d'après Mathieu Culeron, comme on écouterait de la musique classique.
Gabriel de Superpose écrit des petits opéras électroniques. Pour ce disque, il avait en tête certains films avec une vision apocalyptique de la fin du monde.
C'est une période où je lisais beaucoup sur le Land Art, j'avais revu Mélancolia, Tech Shelter, etc. Et tous les films qui s'intéressent à la fin du monde, qui servent un peu à donner le vertige. Il y avait cette sensation justement de vertige, de perte de gravité, de changement de gravité, d'apesanteur qui m'intéressait dans la musique.
C'est en faisant un rejet envers l'académisme du conservatoire que Gabriel s'est forgé un statut de musicien, un véritable tournant dans sa vie.
J'ai vraiment arrêté, je voulais faire autre chose, etc. Et puis j'ai redécouvert la musique par être batteur dans des groupes de rock, même un peu plus tard le hip-hop, etc. Par des approches de musicien autodidacte en fait. Après tout ça, je suis revenu, tu vois, aujourd'hui je sors des albums et j'écris mes partitions et c'était ma petite catastrophe naturelle à moi, quelque part. Mon rapport à la musique catastrophique, le bon point de rupture que je cherche dans ma musique maintenant.
For We The Living de Superpose est un album inclassable, sans doute visionnaire, avec une idée précise de ce que pourrait être la musique du futur.
Ça s'appelle For With The Living de Superpose et le disque est donc sorti clair aujourd'hui. On fait un petit point route avant
avec
la
plaisir.
Météo.
Point route avec les cours Legendre, la réussite scolaire de votre enfant. Cours à domicile et stages de révision par des professeurs de l'éducation nationale. Info cours-legendre.fr.
Avec Laurent Borde en direct du PC Mobilité de Radio France, Laurent, ça coince au retour des stations de ski.
Exactement, sur la 43 notamment en Savoie, il y a 6 km de difficulté entre les Marches et la Ravoire. Il y a aussi 4 km entre le pont de Clay et Grenoble en Isère, 5 km aussi dans le sens inverse sur la 480. Et puis sur la Nationale 87, c'est chargé, 5 km entre Mélan et Saint-Martin-d'Air, 5 km également sur la Nationale 85 entre Visil et Champagné. Et puis sur la il y a 7 km de bouchons entre Vienne et Ternay en direction de Lyon. Enfin, en région parisienne, la circulation est difficile. Sur la francilienne intérieure sud de Paris, vous mettez 20 minutes entre Brie, Contrebert et Combs-la-Ville à cause d'un accident entre une voiture et une moto.
Laurent Borde, merci en direct du PC Mobilité de Radio France.
Merci pour ce journal, Sébastien Paour. Vous avez envie de savoir quel temps il va faire, j'imagine.
Absolument, je reste là.
Et bien, c'est tout de suite.
La météo avec Bleu Forêt. Fabricant français de chaussettes pour hommes en matière naturelle. Coton, fil d'Écosse, soie, laine, graphique ou classique, rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Temps bien agité dans l'ensemble.
Oui, du vent fort entre la vallée du Rhône, le massif central. Il va se renforcer aussi dans la nuit du Languedoc jusqu'à la Provence. Sur les départements en vigilance orange, du Rhône jusqu'à la Haute-Loire et de l'Hérault au Var, on attend 110 km à l'heure jusqu'à 130 sur les côtes.
Et des pluies et de la neige également au programme.
Oui, des pluies parfois orageuses qui arrivent par l'ouest et qui progressent vers le nord, le centre, le sud-est. Cette nuit, demain matin, ce sera très agité de l'Occitanie vers le massif central et la Provence. De la neige des 300-400 mètres sur le sud du massif central. Tarn, Aveyron et Cantal en vigilance orange. On attend 10 à 30 cm de neige au-dessus de 500 mètres. L'après-midi, les pluies se décaleront du nord-est jusqu'à l'est du Rhône. Il neigera bien sur les Alpes. Plus à l'ouest, des averses parfois orageuses et du vent. Dimanche, de nouvelles pluies, du vent et seulement 9 à 14 degrés pour le week-end.
Élodie Calac de Météo France, merci.
Il y en a qui pensent que l'éco, c'est trop...
horrible.
Barbant.
Je comprends rien, moi.
L'économie, c'est pas mon style. Pourtant, l'économie dans notre vie, c'est partout et tout le temps.
Tous les samedis à 9h15 sur France Inter,
on n'arrête pas l'éco.
Marion Lourd.
Ce samedi dans le mag, les Trumponomics. Quelle économie pour les États-Unis et quelles conséquences pour nous? Ce sera notre débat. Manger bio, est-ce vraiment beau? Notre reportage explore les dessous du bio. Et notre invité, en pleine semaine parisienne de la mode, le PDG de la marque Chloé, Geoffroy de la Bourdonnais.
On n'arrête pas l'écho, ce samedi sur France Inter, à 9h15.
Avec MétéoJob, offre d'emploi par affinité. Votre futur emploi partout en France, parmi plus de 80 000 offres, sur MétéoJob.com.
Vous écoutez France Inter, il est 19h21.
France Inter, le 18-20.
Comment faire rebattre le cœur des petites villes et des villes moyennes? On en parle ce soir au téléphone sonne, car ce sujet concerne tout de même entre le tiers et la moitié des Français, ceux qui ne vivent ni dans les grandes métropoles ni à la campagne, ceux qui vivent dans des villes qui se désertifient petit à petit, des villes dans lesquelles bon nombre de commerces ont baissé leurs rideaux. Même le New York Times s'en est ému cette semaine avec le cas d'Albi. Mardi à Bercy se sont tenues des assises pour la revitalisation économique et commerciale des centres-villes. On verra ce qu'il en est sorti. Comment la France a tué ses villes? C'est le titre du livre d'un de nos invités ce soir, notre confrère Olivier Razemont, que je salue. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
À nos côtés également, Pascal Madry, directeur de l'Institut pour la ville et le commerce. Bonsoir Pascal Madry.
Bonsoir.
Et bien sûr, notre grand témoin du vendredi, le démographe Hervé Lebras, qui est resté à nos côtés. Rebonsoir Hervé Lebras. Bonsoir. Alors, si vous habitez dans ces villes qui se dépeuplent ou si vous ne faites qu'y passer, appelez-nous sans hésiter. Le numéro est toujours le même, 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, direction le standard de France Inter où nous attend Bruno. Bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Normandie, c'est bien ça?
Oui, je vous appelle d'une autoroute où je suis entre, où je suis arrêté dans,
oui,
un,
j'espère,
sur un quart de la
vous
France.
Vous êtes arrêté.
Voilà, où je suis sur un, où je roule sur un quart de la France et où j'ai vu en deux décennies l'ensemble des petites villes mourir petit à petit.
C'est-à-dire?
Voilà. Eh bien, c'est très simple. On voit les centres-villes se vider au même titre que les périphéries se créent. Je vais poser à partir d'une donnée statistique. En 10 ans, il y a eu 30% de surface commerciale en plus qui était uniquement dans périphérie et uniquement dans la confection. Y a-t-il eu 30% de Français en plus ou y a-t-il eu 30% de pouvoir d'achat en plus?
Ou des Français qui ont vraiment besoin de s'habiller, quoi.
Ces surfaces-là n'ont jamais créé un seul emploi, car si la grande distribution avait créé des emplois depuis 40 ans, où elle a augmenté son chiffre d'affaires de 50%, il devrait y avoir 6 millions de chômeurs en moins.
Eh ben merci Bruno.
La courbe du chômage suit l'implantation de la grande distribution.
Merci voilà. Bruno, merci beaucoup pour ce témoignage concernant donc le changement du paysage dans notre pays. On va peut-être commencer par un état des lieux avec nos invités. Là, Bruno nous parlait des surfaces commerciales en périphérie. La conséquence directe, c'est effectivement la dévitalisation des petites villes, Olivier Razemont. Oui. Est-ce qu'on peut donner quelques données pour commencer?
Oui, en fait, effectivement, ce qu'on constate quand on voit les grandes surfaces périphériques
se créer année après année et il y a encore beaucoup de projets. C'est pas du passé tout ça, hein. C'est en train de se faire aujourd'hui avec des gros projets parfois. Évidemment, la conséquence, c'est ce qu'on appelle la vacance commerciale. Là, Pascal Madry en est un spécialiste, mais effectivement, c'est la proportion de commerces vides dans les villes qui progresse année après année. On gagnait un 0,7 point ou 0,8 point dans les années précédentes. On a gagné un point de vacances commerciales l'année dernière, entre 2015 et 2016. Et on le voit, et c'est quelque chose qu'on connaît très bien quand on habite effectivement à Niort, à Montauban, à Albi ou à Troyes, et qu'on connaît bizarrement beaucoup moins bien quand on habite Paris ou Lyon, parce que c'est beaucoup moins visible. Et c'est, le sujet émerge maintenant, et je suis assez content de voir émerger le sujet, parce que je pense que c'est très grave, mais jusqu'à présent, il émergeait assez peu, et d'ailleurs, on voit d'ailleurs dans la campagne présidentielle assez peu de prise de position sur ce sujet, c'est un petit peu étonnant, tout simplement, je crois, parce que quand on est à Paris ou à Lyon ou à Bordeaux, on ne le voit pas le sujet, on ne connaît pas la France, on n'a pas cette vision, et je pense que si c'est grave, c'est pas seulement à cause des commerces, ça me semble extrêmement important de souligner cet aspect-là, c'est que c'est pas seulement une affaire de commerce, c'est pas seulement une affaire de centre-ville, c'est toute la ville qui est concernée, et c'est aussi l'habitat, c'est aussi la population, en fait c'est le résultat, alors on le voit sur le plan commercial, mais finalement ce qui est en train de se passer est tout simplement le résultat pratique de 50 ans d'étalement urbain, où on a finalement construit la ville en dehors de la ville, sans se poser de questions. C'est pas un grand complot, simplement, on s'est pas posé la question, on a dit, bah tiens, on va quand aujourd'hui, d'ailleurs encore
maintenant... Il y a quand même eu des alertes des petits commerçants depuis très longtemps.
Et puis aussi de tout un tas de gens qui ont fait des rapports là-dessus, en disant, attention, l'étalement urbain pose un problème, vous allez voir, bien sûr, il y a les terres agricoles, bien sûr, il y a le CO2, mais il y a aussi, finalement, le délitement des relations sociales, et en même temps, on continue aujourd'hui, quand on veut remettre Pôle emploi, on veut réaménager les bureaux, bah, qu'est-ce qu'on fait? On le crée en périphérie.
Pascal Madry, Olivier Razemont l'évoquait, le taux de vacance. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette notion, la vacance commerciale? C'est-à-dire, ça, c'est le nombre de. La proportion de commerces fermés dans une ville?
Alors, je voudrais peut-être revenir simplement avant de parler de vacances sur ce fameux découplage entre la consommation et entre les surfaces. Il a toujours eu lieu. Il faut voir qu'il y a toujours eu lieu et que dans les années 30, on comptait par exemple 2 millions de commerces en France. Aujourd'hui, 3 fois moins.
800 000, j'ai vu.
Alors que, à peu près, ouais, voilà, hein, selon les chiffres de l'INSEE. Or, dans le même temps, la population française, elle, a gagné 20-25 millions d'habitants. Il faut toujours moins de commerces pour satisfaire toujours plus de besoins de consommation. En revanche, ce commerce plus compétitif, plus productif, il consomme énormément de surface. Et il est vrai qu'on a produit plus de surface, que le rythme de production de surface a été plus rapide que celui de la consommation. D'abord, durant toutes les années 60-70, on a produit 20 millions de mètres carrés de commerce qui ont été là essentiellement pour satisfaire les besoins de consommation de cette société de consommation précisément, et avec des marchés en croissance.
Même une progression des surfaces commerciales de 60% entre 92 et 2003.
Alors, ce qui est plus surprenant, c'est qu'effectivement, cette croissance continue aujourd'hui, alors que le commerce moderne est établi, que la plupart des marchés de consommation sont quasi saturés. Et effectivement, aujourd'hui, on assiste à un découplage qui s'accélère entre ces surfaces et la consommation. On a produit à peu près 30 millions de mètres carrés depuis les années 80, quand la consommation, elle, s'est mise à ralentir, spécialement depuis les années 2000. Alors, on pourra revenir sur les raisons de cet emballement. Effectivement, aujourd'hui, ce découplage craque. Et ce qui, là encore, on pourra y revenir, ce qui était finalement une crise économique d'un secteur, celui du commerce moderne, est en train aujourd'hui de déborder sur les territoires et de se traduire effectivement par de la vacance. Et elle atteint aujourd'hui en moyenne 10% dans le centre-ville des villes. Les villes moyennes sont plus touchées. Mais j'ajouterais là encore qu'il ne faut pas simplement observer ce qui se passe dans les centres-villes. La vacance progresse également dans les sites de périphérie. Elle augmente dans les centres commerciaux et elle augmente également dans ce que l'on appelle les entrées de ville, les lotissements commerciaux. Là également, la vacance progresse. En fait, nous assistons à une crise du commerce moderne qui est très visible dans les centres-villes, mais qui se diffuse également dans ces sites que l'on aurait tendance à opposer peut-être un peu trop rapidement à notre commerce.
Le seuil d'alerte, c'est quoi? C'est 10% de vacances?
Comme on peut faire le parallèle avec le marché du logement, effectivement, au-delà de 10%, on peut considérer que la vacance est durablement installée, qu'elle est structurelle. En deçà de 5%, on est sur une vacance conjoncturelle qui qu'il y a des mécanismes de court terme et sur lesquels, a priori, il est possible d'agir.
Et le problème, c'est que cette vacance des commerces, c'est un cercle vicieux. Elle entraîne une chute de la population, des logements vides, etc. Olivier Razemont.
Elle entraîne ou elle est concomitante, plutôt. C'est-à-dire qu'on a aussi ce discours qui consiste à dire, depuis des décennies, il faudrait créer 500 000 logements par an pour satisfaire les besoins. Et puis, en même temps, on a des logements vides. Et quand on regarde les statistiques de l'INSEE, on est impressionné par le nombre de logements vides dans les villes. Alors, pas partout, mais dans les villes centres, on a parfois 7, 10, 15% de logements vides. On est frappé aussi par une chose, et c'est aussi pour ça qu'on ne voit pas forcément les choses quand on est à Paris, c'est que on a, contrairement à ce qu'on imagine, ce qu'on imagine des métropoles ou des grandes villes, on a un revenu moyen par habitant plus faible dans la ville-centre que dans la proche périphérie. Et ça, c'est valable presque partout.
C'est l'INSEE assez frappant. Qui a montré ça en 2014.
Voilà, l'INSEE en avait fait un portrait social, mais c'est quelque chose qui en plus de ça s'accentue d'année en année quand on regarde les statistiques de l'INSEE. Et c'est-à-dire que voilà, les riches n'habitent plus à Albi mais à Puy-Gouzon, plus à Niort mais à Choret, plus à Arras mais à Saint-Laurent-Blangy, etc.
Hervé Le Braz, le démographe que vous êtes, forcément est interpellé.
Oui, là sur le dernier point, mais je pourrais y revenir. Mais il y a quand même quelque part, il y a d'abord un rêve des Français qui est très difficile à contrer, c'est le rêve du pavillon. Donc que faire? Bien sûr, tous les architectes et les urbanistes recommandent la ville verticale, mais c'est peu suivi des faits. Donc il faut aussi voir qu'il y a par derrière un mouvement, je dirais, populaire. De la même manière, après tout, ces personnes qui se... Je vais être un peu contradictoire, mais ces personnes qui se plaignent de la disparition des commerces en centre-ville, c'est les mêmes qui vont acheter dans les grandes surfaces. Donc, c'est eux-mêmes qui fabriquent leur malheur. De ce point de vue-là, on pourrait dire ils votent avec leurs pieds. Alors, l'autre point est que les logements en centre-ville sont assez peu adaptés aux familles de plusieurs enfants. Là, on voit très clairement quand on fait des cartes où sont les Français selon leur âge. S'ils ont entre 20 et 25 ans, ils sont au cœur des métropoles. Et puis ensuite, à part ces 30 ans, ils sont de plus en plus loin des métropoles et des villes importantes parce qu'ils ont de l'espace, ils en ont besoin pour leurs enfants.
On repart au standard de France Inter. Françoise qui est en ligne de Montpellier. Bonsoir Françoise.
Nous sommes donc dans le département de l'Hérault. C'est un département qui est champion de l'installation des zones commerciales, notamment autour de la métropole. La pression démographique est forte. La population a plus que doublé en 30 ans, mais l'étendue des surfaces commerciales, elle, a été multipliée par 10. Alors, sur le territoire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière, qui est située dans la périphérie nord, est prévue une zone commerciale sur un terrain de plus de 24 hectares de terres cultivées et naturelles. 3 grandes enseignes, dont un grand magasin de sport, Décathlon et d'autres activités commerciales. Alors, avec 13 associations environnementales et citoyennes, nous avons fondé un collectif pour nous opposer depuis plus de 2 ans maintenant à ce projet. Quelle que soit l'échelle des projets, on constate avec d'autres associations de la Fédération des terres padipères qui est notre fédération au niveau national, que les mêmes causes produisent les mêmes effets, destructeurs de l'environnement, du cadre de vie, des terres nourricières.
D'où votre combat.
Etc. D'où notre combat. Et bien sûr, thème de votre émission, l'immense inquiétude qui est suscitée par ces projets pour les commerçants locaux qui doivent se battre à armes très inégales pour survivre. Plusieurs se sentent trahis par leurs élus qui se laissent impressionner et séduire par les opérations marketing d'enseignes prestigieuses et l'espoir pour leur commune de retombées financières, même fugaces, et de création d'emplois qui pourtant, dans un marché saturé, comme ça a été dit, je crois, ne seront que des transferts ou entraîneront des suppressions dans le même secteur d'activité ailleurs.
Merci beaucoup, Françoise, pour ce témoignage. Vous avez dit plein de choses et notamment, effectivement, vous avez abordé le rôle des élus, hein, oui. qui se laissent séduire par les créations d'emplois en périphérie.
Ça, c'est le discours. Ah bah oui, on vous propose de créer des emplois en périphérie. Alors, ah bah oui, c'est très bien. Partout 80 emplois, ça nous ferait du bien à Guéret. 2000, peu importe le chiffre finalement, après tout. Et en fait, il n'y a pas vraiment de réflexion à long terme. Il y a assez peu d'études, mais il y en a quand même quelques-unes qui montrent qu'effectivement, quand on crée des commerces en périphérie, on a une destruction ailleurs, et notamment en ville, mais aussi les fameuses friches commerciales dont parlait Pascal Madry à l'instant. Et puis, on a cette destruction d'emplois qui se fait pas immédiatement. C'est pas le lendemain, c'est pas le jour de l'inauguration que ça se fait. Les créations d'emplois, d'ailleurs, non plus. Les créations d'emplois, elles sont étalées. Ah bah oui, on vous en avait promis 2000, mais on en fait 750 aujourd'hui. Et puis, en fait, les autres, ça viendra plus tard. Après, on voit ce que ça donne. Ça vient pas forcément. Par contre, les destructions, elles se font un peu plus tard, quelques années après. C'est le demi-salarié du pharmacien, c'est la librairie qui ferme, etc. Et donc, et aujourd'hui, on continue. Et ce qui est frappant, il faut quand même les citer, ces machins-là. Europa City, qui a vu absolument s'implanter en Île-de-France, et avec le même effet, ça aura exactement le même effet sur les villes franciliennes du nord de l'Île-de-France, parce que Paris n'est beaucoup moins touché, mais par contre, en Île-de-France, il y a des villes qui sont également concernées. Val-Tolosa, près de Toulouse, Steel, qui veut se mettre à côté, hein, ce qui est un grand complexe à côté de Saint-Étienne, un complexe commercial. Il y a un Décathlon à Orléans aussi. Enfin, il y a toute une série comme ça de projets, et qui en fait sont absolument pas basés là, voilà, sur le besoin de consommation, et on se demande vraiment pourquoi on fait ça.
Pascal Madry, est-ce que c'est une particularité française? Bon, alors on va peut-être écarter les États-Unis où le problème existe depuis un petit moment déjà. Est-ce que nous, en Europe, on est une exception?
Alors, le commerce moderne, la grande distribution, est effectivement très présente dans le secteur du commerce en France. On figure peut-être parmi les pays où ce secteur est le plus concentré, où les chaînes, les entreprises de moyenne surface sont les plus présentes. Mais là encore, je pense que l'on est toujours sur cette contradiction que M. Le Braz soulevait, c'est que ces moyennes surfaces qui sont tant décriées, ce sont effectivement, on ne sait pas bien mesurer en fait globalement quel est l'impact sur l'emploi. On sait simplement que pour produire un même niveau de chiffre d'affaires comparé à une boutique, il faudra peut-être un tiers d'emploi en moins.
Voilà.
Derrière cela, vous avez en fait une mesure de l'efficacité, de la productivité de ces magasins. Et ces magasins ont permis, durant la période de société de consommation de masse, aux Français à accéder à des besoins, en tout cas à satisfaire leurs besoins de consommation de masse. Aujourd'hui, ce qui est décrié, c'est que cet effort de productivité, il coûte énormément en foncier, puisque dans le même temps, il faut 5 fois plus de surface à une moyenne surface pour là encore produire le même niveau de chiffre d'affaires qu'une boutique en centre-ville. Et c'est le coût social qui aujourd'hui semble devenu inacceptable pour une partie de la population qui est révélée. Mais cette contradiction, elle était au cœur de notre société de consommation et il y avait un compromis, je pense, social jusqu'à présent pour accepter tout à fait cela.
Olivier Razemon, après on repart au standard.
Tout à fait. Tout ça a un effet, bien sûr, sur les commerces. On peut compter les emplois dans les commerces, les emplois en moins, mais aussi sur la ville dans son ensemble. Ça veut dire qu'il y a moins de monde en ville. Ça veut dire qu'on est donc du coup tenté de mettre des infrastructures à l'extérieur. Ça veut dire que ces villes qui ont un magnifique patrimoine, aller passer un week-end à Troyes, à Albi, à Moulins, et c'est absolument extraordinaire. Aujourd'hui, ça tombe à certains endroits, pas les monuments classés, mais le reste, parfois en ruine. La ville est le creuset de la société. La société française est une société multiculturelle, qu'on le veuille ou non. Elle se manifeste en ville. Parfois, ça crée des tensions, mais ça crée aussi beaucoup de richesses. Ça crée aussi beaucoup, sur tous les marchés, dans toutes les villes de France, il y a des épices qui viennent d'autres continents, du couscous, etc., du poulet, massa, etc. C'est pas rien. Et c'est là que se fait la ville, c'est là que se fait la société, et on est en train d'abandonner les villes.
Et puis globalement, c'est pas très agréable de se promener à un endroit où toutes les boutiques sont fermées, c'est plus agréable d'être dans un endroit
triste.
Où tout est ouvert. On repart au standard et on va voir qu'on peut prévenir ce genre de problème avec en ligne de Saillant le conseiller municipal Fernand Caragianis. Est-ce que j'ai bien prononcé?
Oui, c'est
bonsoir
bien.
À vous. Alors, rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Saillant, je rappelle que votre ville, qui est dans la Drôme, dans cette ville, les habitants ont pris le taureau par les cornes il y a quelques années. Vous êtes devenu un exemple de démocratie participative, puisque votre liste citoyenne a été élue au premier tour des dernières municipales. Depuis, c'est la gestion collective à Saillant. Et au début de toute cette histoire, il y a l'opposition à l'implantation d'un centre commercial, c'est ça ?
Disons que d'un supermarché à la périphérie, comme c'est indiqué, pareil.
Pour vous, c'était non. Vous n'en vouliez pas.
On n'en voulait pas parce que c'était complètement aberrant. On était obligé de prendre la voiture pour y aller. Et on a voulu se prémunir contre tous les risques que ça pouvait endurer pour les commerces qui existaient à l'heure actuelle. Saillant, on a quand même la chance d'avoir une activité, si vous voulez, des services, encore quelques commerces dans un centre-bourg. Et donc les habitants, on s'est tous réunis parce que vraiment c'était un très grand risque, un impact sur tout ça. Et on a voulu prévenir. Donc on a été par contre très impressionnés parce qu'on n'a jamais eu d'études d'impact, ni rien du tout là-dessus. C'était un passage en force sur une zone artisanale avec des prix très bas qui étaient prévus pour, renforcer l'économie locale. Et là, on donnait des prix très bas à une grande enseigne. Donc c'était l'incompréhension totale dans le village, mais heureusement, il y a eu vraiment un collectif d'habitants qui s'est regroupé, qui a lutté pendant 3 ans.
Et vous avez pris le pouvoir, surtout.
On a déjà.
Vous avez gagné les élections.
Que ce projet ça s'arrête. C'était déjà la première étape. Et on a pris le pouvoir parce que justement, ça a été une occasion de rencontre. On s'est vraiment rencontrés dans le village, toutes les générations, et ça a été un moment fort parce que justement, il y a eu du vrai débat de fond. Voilà. Pourquoi ce projet-là et pourquoi nous, les citoyens, on n'a pas été informés et qu'il a fallu se battre à ce point. C'est pour ça qu'il y a une très grande réflexion sur la partie démocratique, j'allais dire, de ces décisions-là.
Eh ben, merci beaucoup, Fernand Karajanis, pour ce témoignage. Qui veut réagir sur le fait que le pouvoir est vraiment aux politiques ou est-ce qu'il est aussi au préfet qui accorde les autorisations, Pascal Madry ?
Alors, il y a une responsabilité collective hein, dans cette surproduction. On a souligné le rôle des distributeurs en partie. Les promoteurs ont aussi joué la carte, puisque pour eux, de toute façon, il y avait une demande pour de nouveaux locaux. Donc, la responsabilité aussi du côté du marché de l'immobilier. Et effectivement, les collectivités... ont pu être un peu naïves en voyant des initiatives économiques survenir sur leur territoire et ont accepté ces créations parce que des emplois nouveaux, des recettes fiscales nouvelles, de la notoriété aussi. Il y a beaucoup de maires qui rêvent d'avoir un IKEA sur leur commune. Et puis surtout, beaucoup de communes, beaucoup d'agglomérations sont dans une forme de compétition territoriale qui les pousse à essayer d'attirer à elles des activités économiques, et en particulier du commerce, pour éviter que leurs consommateurs aillent consommer ailleurs. C'est ce qu'on appelle limiter l'évasion commerciale. Donc limiter l'évasion et en même temps essayer d'attirer quand même le consommateur des villes avoisinantes. C'est un peu comme la membrane Gore-Tex, on laisse passer les flux que dans un sens. Et cette compétition-là, elle a été très peu régulée par les règles d'urbanisme commercial qui existent en France depuis maintenant une trentaine d'années. Ce ne sont pas des règles d'urbanisme commercial, on le saurait. Nos entrées de ville ne seraient pas tant décriées si on avait eu le souci de l'urbanisme. Ce sont en fait des polices de concurrence et qui ont pour l'instant très peu joué leur rôle, puisque encore une fois, on a vu ces surfaces se développer outre mesure, outre la consommation.
Inertie des pouvoirs publics, Olivier Razemont.
Souvent, effectivement, une forme d'inertie, une forme de pente la plus douce. Ce qui est intéressant à Saillant, c'est qu'ils ont réussi à... je ne sais pas ce que c'est dans la démocratie participative, mais ils ont au moins réussi à bloquer. Je suis frappé, parce qu'à force d'aller un peu partout dans toutes les villes de France, j'étais le jour à Tournus, en Saône-et-Loire, il y a 5700 habitants, c'est au bord de la Saône, c'est magnifique. Et là, il y a un projet lancé par le maire, de nouveau centre commercial Leclerc à la sortie de l'autoroute, en disant, voilà, on va faire un pôle économique, on va attirer des entreprises, et puis en plus, mais d'abord, on va commencer par un Leclerc. Il y a déjà 5 surfaces de vente de locomotives alimentaires, comme on dit, dans cette ville de 5700 habitants. En plus, il y a un Auchan à 10 km. Il y a une association qui s'est créée, et il y a 450 personnes qui sont membres de l'association sur 5700 habitants, c'est pas mal, et qui disent, non, on veut pas de ce truc-là. Donc je trouve que les citadins ont des ressources énormes, et j'en rencontre partout, et je pense qu'il y a moyen de faire pression, effectivement, sur les élus.
Alors, moi j'ai une question quand même, Hervé Lebras, j'ai lu, je ne sais plus dans lequel de vos livres, vous rappelez quand même que la campagne de Roy en 74 s'est faite en partie sur non au supermarché. Alors, l'affaire date pas d'hier.
Ah oh non, là, effectivement, la campagne de Royer, c'était deux choses. Hein, c'était
non à la pornographie,
non à la pornographie
et non au supermarché.
Non au supermarché. Bon. Je pense pas qu'il y ait une association entre les deux. Mais l'ennui est que Royer était quand même... pourrait qualifier d'un homme politique assez réactionnaire. Donc ça n'a pas fait avancer la cause de la lutte contre l'implantation des surfaces commerciales. Ce que je trouve intéressant dans les exemples qui viennent d'être donnés, ça correspond à ce qu'au fond j'ai dit au début, c'est quand les habitants se prennent en main, à ce moment-là, effectivement, ils peuvent éviter. Mais si les habitants, comme je l'ai vu dans des, mettons, dans des petites villes comme Castelnaudary, s'évadent à la fois du centre-ville pour aller dans des pavillons autour et puis pour aller faire leurs courses dans les grandes surfaces, ils sont victimes de leur propre comportement.
Encore un mot de l'attitude politique, parce que j'ai vu, ça c'est dans le livre d'Olivier Razemont, la corrélation, j'ai pas dit lien de cause à effet, mais corrélation entre le vote Front National et la présence des commerces dans les petites villes.
Alors oui, alors ça c'est une étude qu'a faite l'IFOP après les élections européennes de 2014 pour vraiment pour les villages, donc de moins de 1000 habitants. Donc c'est pas les villes moyennes dont on parle, là c'est vraiment les villages. Et effectivement, ils se sont aperçus, ils se sont amusés à regarder le pourcentage de vote FN et puis est-ce qu'il y a une poste, est-ce qu'il y a une boulangerie, etc. Et ils se sont aperçus qu'effectivement il y avait une différence quand il y avait des commerces, et le vote FN était un peu plus faible en moyenne, et quand il y avait pas de commerce, et quand il y avait pas du tout de commerce, par contre il était plus haut. Puis ils se sont même amusés à regarder, la poste fait baisser de combien, la boulangerie de combien, l'épicerie de combien, etc. Ça c'est une chose. Mais par contre les villes moyennes aujourd'hui, non, elles, au contraire, elles sont plutôt des remparts contre le FN, en fait. En l'occurrence, si la région Hauts-de-France n'a pas voté pour Madame Le Pen il y a un an et demi, c'est parce qu'il y a des villes. C'est pas seulement Lille, mais c'est aussi Laon, Soissons, Saint-Quentin, etc. Et puis et Boulogne-sur-Mer qui ont voté contre. Voilà. Donc c'est pas juste. Mais par contre, effectivement, à partir du moment, mais je crois que Hervé Lebras a travaillé là-dessus, donc je vais laisser parler. Mais à partir du moment où il y a une sorte de délitement, voilà.
Oui. Non, vous avez. Je vais tout à fait dans votre sens. Quand on regarde l'intensité du vote FN selon la dimension des communes, il est d'autant plus fort qu'on est dans des communes. C'est récent, dans des communes de petite dimension. Enfin, c'est récent. Ça date de 2007. Le tournant jusqu'en 2007, le vote FN est à peu près égal, quelle que soit la dimension de la ville. Et c'est assez curieusement la campagne de Sarkozy de rapprochement avec les thèmes du FN qui va créer cette dissociation et peut-être ce sentiment d'abandon, comme disent certains, mais je voudrais dire que c'est un des éléments seulement. Quand on regarde la disparité du vote FN en France, les écarts régionaux sont nettement plus importants que les écarts selon la taille des communes. Et c'est là une question à regarder de près. Autrement dit, les écarts entre le vote, justement, dans l'étude de Jérôme Fourquet, de l'IFOP, l'écart entre le Nord et la région méditerranéenne qui vote à près de 40%, et puis la Bretagne ou une partie du Sud-Ouest qui vote entre 15 et 18%, c'est un écart énorme. Et c'est celui-là aussi qu'il faudrait comprendre. Et il est possible qu'il ait un rapport avec ce que vous faites et ce que vous dites, c'est-à-dire c'est dans les régions. En fait, les régions du Nord-Est et les régions de la bordure méditerranéenne, c'est des régions où la population ne vivait pas clairsemée. Elle n'était pas en bocage. Elle vivait dans des villages groupés. Et c'est là que les commerces ont disparu en premier, dans les tout petits villages ou dans les très petites villes. Donc il y a eu sans doute l'amorce du vote FN à partir de 1984 peut être cherchée dans ce type de, au fond, de variable, si on peut dire.
Le délitement du lien social, en fait, fondamentalement.
Oui. Absolument.
Et de peur de l'autre, parce qu'en fait,
absolument,
c'est comme ça.
Et on pourrait parler peut-être de la responsabilité aussi de l'État, hein, quand il ferme un tribunal, quand il ferme un hôpital, etc., dans la dévitalisation des petites villes. On repart au standard de France Inter. Brigitte, patiente au standard, elle nous appelle des Yvelines. Bonsoir Brigitte.
Oui, bonsoir à tous. Alors, j'ai signalé aux gens du standard que les directeurs de Houillère avaient compris qu'il fallait mettre les ouvriers à côté des mines et ils ont créé des corons. Alors imaginons que nous décomptions du temps de travail, le temps de transport. Cela inciterait peut-être les décideurs à mettre les entreprises là où habitent les gens. Donc il n'y aurait plus de cité dortoir. Il y aurait des gens qui vivraient là où ils travaillent. Et par la même occasion, les transports seraient beaucoup plus plaisants. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci pour cette question, Brigitte. Les transports, c'est un peu le truc d'Olivier Razemont. Alors, on va lui passer la parole.
C'est intéressant. Mais simplement, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que quand vous avez un couple, ils ne travaillent pas forcément au même endroit. En plus, on change beaucoup plus de travail, d'emploi au cours de sa vie qu'on le faisait autrefois à l'époque des Houillères. Donc, malheureusement, c'est pas si simple. Puis, en plus de ça, tout simplement, les gens veulent choisir l'endroit où ils vivent. Et effectivement, c'est aussi ça. Vous parliez des pavillons. Effectivement, il y a des pavillons. Quand même, l'étalement urbain, c'est pas seulement des pavillons. Il faut quand même le rappeler. C'est aussi toute une série de rocades, de toute une série d'équipements qu'on met à l'extérieur, etc. Mais donc oui, je trouve cette idée un peu utopique, franchement. Aujourd'hui telle qu'elle est. Par contre, effectivement, il faut se poser. Là, ça me semble par contre beaucoup moins utopique. Effectivement, se poser la question des transports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on aménage le territoire ou quand on l'organise plutôt, on pense rarement au transport. En fait, on voit pas ça. C'est un peu le point aveugle du raisonnement. On dit bah oui, on a qu'à. J'ai rencontré des élus qui m'ont dit ah oui, on aménage tel équipement en entrée de ville. Mais c'est quoi l'entrée de la ville exactement? On peut y accéder comment? On y va à pied? Est-ce qu'on peut le traverser cet endroit? Et en fait, on s'aperçoit que on continue à aménager le territoire en pensant que de toute façon, tous les déplacements doivent pouvoir se faire en voiture individuelle tout le temps. Et le résultat pratique, c'est que tout le monde effectivement le fait. En tout cas très massivement, et donc ça éloigne forcément, puisque en voiture individuelle on va plus loin, donc ça éloigne, ça permet l'éloignement.
Pascal Madry, ah, on ne peut pas se garer, on en vient à cette fameuse phrase qui énerve tellement Olivier Razemont.
Oui, alors peut-être avant,
concernant le
commerce,
c'est
pas qu'elle m'énerve, mais j'en parlerai. Mais je voudrais d'abord dire que la géographie de la production n'est plus liée à la géographie de la consommation, et que lorsque l'on regarde les villes avec les taux de vacances les plus faibles, ce sont des villes qui souvent s'étalent. Comme quoi la croissance urbaine, le dynamisme urbain recolle avec le dynamisme commercial. Alors là encore, avec de la consommation foncière. Mais en général, les villes qui s'étalent ont un commerce florissant. Et par ailleurs, ce sont aussi les villes plutôt touristiques et donc qui attirent des flux extérieurs, en grande partie motorisés, qui là encore présentent les taux de vacances les plus faibles. Ça, c'est pour la macro, le macro-transport. Alors après, dans le détail, il faut bien voir que les centres-villes, qui étaient autrefois les lieux de passage obligés de la population, sont devenus depuis des lieux de destination. Les deux tiers des Français vivent non pas dans le cœur des villes, mais sur leur pourtour, voire dans le périurbain. Et ces lieux qui étaient autrefois des lieux de passage naturels sont maintenant des lieux de destination.
Hervé Lebras, vous souhaitiez réagir?
Oui, juste un mot sur les transports, parce que j'ai vu une remarque qui était faite dans votre livre à propos de Soissons, où les gens de Soissons disaient « mais c'est parce qu'on est mal relié à Paris, c'est parce que les routes... » Mais ça risque d'être l'inverse pour eux, c'est-à-dire que ce qui s'est produit en France, c'est que plus les villes ont été bien reliées, y compris par le TGV, plus les habitants ont eu tendance, bien sûr, à devenir ce qu'on appelle des navetteurs. Le cas exemplaire est le cas de la ville du Mans, où chaque jour, 2000 personnes viennent travailler à Paris. Donc, il ne faut pas croire qu'à des recettes de ce genre-là. Et pour revenir sur les distances domicile-travail, elles ont augmenté. Elles sont maintenant le double de ce qu'elles étaient en 1970, selon les travaux de l'INRETST. Et en même temps, le temps passé en commutation est resté le même. Autrement dit, tout le gain d'accessibilité par les routes a été utilisé pour aller plus loin.
Pour aller plus loin. Pas pour aller plus vite, mais pour aller plus loin, effectivement.
Voilà, alors maintenant j'aimerais qu'on se pose quand même la question, que faire pour remédier à toute cette situation? On repart au standard. François de Montrouge, vous avez des idées, François? Bonsoir.
Oui, bonsoir. Ce que je voulais dire, c'est que nous sommes aussi responsables. Que en allant dans les grandes surfaces, on met de l'eau au moulin. Donc moi, j'ai regardé les prix, en fait, dans les petits commerces ou au marché, sont pas si différents. Et Rob Hopkins, qui a mis en route la transition, a écrit dans son livre « Le pouvoir d'agir ensemble ici et maintenant » chez Actes Sud, comment faire. Et avec notre argent, on a le pouvoir. Et en mettant 10% de ce qu'on dépense en alimentation, etc., dans le commerce de proximité, on remet vraiment la vie en marche dans nos villes. Et ils le montrent très bien avec l'exemple de la ville de Totnes, où ils ont redynamisé le tissu économique en faisant comme ça.
Merci beaucoup, François. Qui veut réagir, Olivier Razemont? On est tous responsables.
Oui, évidemment, on peut tous faire quelque chose, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, il y a vraiment des choix à faire en termes d'organisation urbaine et effectivement refuser les nouvelles zones commerciales. Je pense que certains élus commencent à le faire et ont compris qu'il fallait le faire. Pas seulement les zones commerciales, mais aussi le reste, mais aussi aussi l'hôpital, la maternité, etc. Et ça, c'est un travail assez long et assez complexe. Mais ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut effectivement se poser la question du déplacement. Parce qu'effectivement, dans toutes les villes, à chaque fois qu'on discute de ça, il y a des commerçants qui viennent dire « Ah oui, mais on peut plus se garer, il faut plus de stationnement gratuit, etc. » Sauf que ça, c'est, je dirais, le niveau 1 de la réflexion en termes de... Mais c'est pas le niveau 0, c'est le niveau 1. Et en fait, il faut se dire « Ok, très bien, vous voulez avoir les bonnes voitures, celles qui s'arrêtent devant votre commerce et puis qui ensuite repartent. Très bien. » Mais assez vite, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que les bonnes voitures. Il y a aussi toutes les autres, y compris celle qui vient justement de se garer devant votre commerce et puis la personne vient d'acheter quelque chose, mais en fait, il est resté un peu plus longtemps. Là, ça devient d'un seul coup une mauvaise voiture. Et puis, il y a toutes les autres, celles qui font que passer, celles qui font que se garer pour toute la journée parce que elles appartiennent à des salariés qui viennent en ville. Et là, il faut une réflexion. Et dire, bah, peut-être qu'une bonne partie des salariés qui viennent en ville, ils habitent parfois pas très loin, ils peuvent peut-être venir autrement. Ils pourraient peut-être venir à vélo. Il faut faire des politiques cyclables dans les villes. Ça peut paraître totalement aberrant dans certaines villes, mais pourtant, c'est les villes les plus cyclables, là où on se déplace le plus à vélo, sont également celles qui s'en sortent le mieux aujourd'hui. Donc il faut réfléchir. Il faut élargir des trottoirs. Ça peut paraître pas inaugurable, banal, tout ce qu'on veut, mais allez voir à Brive, j'étais le jour à Avignon, minuscule trottoir de 20 cm de large, où on peut pas se croiser, on peut pas tenir un enfant par la main. Comment voulez-vous que les gens aient envie d'être en ville, de passer d'un quartier à l'autre de la ville à pied, s'ils ne peuvent pas circuler sur un trottoir, réorganiser les carrefours? Donc il y a plein de petites choses à faire. Il faut prendre en compte les déplacements, mais pas seulement du strict point de vue de la voiture individuelle.
Sinon, Pascal Madriès, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce qu'il y a eu des assises pour la revitalisation des centres-villes cette semaine à Bercy. Moi, pour l'instant, j'ai vu que la Réunion a accouché d'un site internet, c'est ça?
Super.
Oui, alors, le mérite de ces assises, c'est qu'il y a, je pense, maintenant un début de prise de conscience à la fois des collectivités, des pouvoirs publics sur ce sujet, qui n'existait pas il y a encore 2 ans. Donc, je préfère être positif sur cette initiative. Que faut-il faire? Il faut recréer des flux. Il faut ces centres-villes qui sont au centre des territoires, mais qui ne sont plus au cœur de nos modes de vie, doivent retrouver des motifs de destination. Et alors, pour cela, les élus ont effectivement différents leviers d'action. D'abord, tout simplement embellir, entretenir ces centres-villes. Alors, il s'agit des immeubles, il s'agit des espaces publics, il s'agit des places. Et donc, créer en quelque sorte le support qui va accueillir ces flux. Et puis ensuite, eh bien, c'est travailler ces flux. Alors, quand on parle de flux, c'est pas le consommateur qu'il faut viser, c'est d'abord l'habitant. Et bien souvent, effectivement, l'offre de logement dans les centres-villes n'est plus adaptée parce qu'il y a des propriétaires qui ont eu des comportements plutôt opportunistes, qui ont découpé en petits appartements et qui aujourd'hui ne sont plus du tout adaptés, par exemple, pour des familles. Donc le logement, c'est aussi l'emploi. Si une caisse d'épargne veut se délocaliser en périphérie, ben on essaye de la maintenir dans le centre-ville.
C'est un travail vaste et ça implique
une
vraie implication des élus.
C'est une politique globale et qui implique les élus, mais les commerçants eux-mêmes, les habitants, on l'a vu, et aussi les propriétaires. Il ne faut jamais oublier les propriétaires.
Et les forces vives de la ville, les forces vives, la troupe de théâtre, tout ça, la presse locale, enfin tout le monde, oui.
Alors, on va faire un dernier tour de table, mais je voudrais quand même juste poser cette question qui nous vient par Internet, question de Françoise. Quel recours nous reste-t-il, nous citoyens, même quand il y a eu consultation et que nos souhaits n'ont pas été respectés? Qu'est-ce qu'on peut faire? Olivier Razemon, 2 secondes.
Allez chez votre primeur et votre libraire et continuez à aller... Voilà, c'est ça. Après, effectivement, il y a des recours qui sont faits.
Vous appelez les habitants de Saillant et vont vous donner des conseils, et éventuellement. Il est 19h56, on fait un tout dernier tour de table. Pascal Madriès, c'est à vous. En conclusion.
Les habitants de Saillant, attention, ils se sont opposés à un supermarché. Je ne suis pas certain qu'ils ne continuent pas de pousser des caddies en allant notamment à Valence et à Cresse, qui sont les 2 grandes zones commerciales qui desservent ce petit village sans commerce. Donc attention aux contradictions. Ils sont contre les supermarchés, mais pas contre la société de consommation, je pense. C'est une affaire collective et pousser un caddie aujourd'hui, eh bien, ça a plus qu'un sens de consommatoire. C'est aussi derrière un choix de société. Donc, c'est à nous de décider quelle est la place du commerce dans nos villes.
Olivier Razemon.
Je pense qu'il faut être conscient qu'on ne peut pas voir tout partout. C'est évidemment, on ne peut pas avoir un Ikea dans chaque ville et on ne peut pas avoir une gare TGV à la portée à 15 km. Il faut être conscient de ça et l'accepter.
Hervé Le Braz. Ça vous que revient le mot de la fin, notre grand témoin du vendredi.
Il ne faut pas oublier que aussi une partie du problème des villes moyennes vient du fait du développement très fort des métropoles. Et il y a beaucoup de raisons au développement de ces métropoles et aussi un certain développement du rural. Actuellement, dans les derniers recensements, ce sont les communes entre 500 et 2500 habitants qui ont le plus fort taux de croissance.
Voilà, et on rappelle quand même que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, puisque on le disait, même le New York Times en a fait sa une cette semaine en parlant d'Albi. L'exemple était bien choisi, Olivier Razemon.
Très bien, ils m'avaient interviewé, mais ils m'ont pas cité.
Oh, bah alors, on va leur dire...
Mais effectivement, c'était un très bon exemple. J'avais voilà. rencontré la personne qui est citée dans le bouquin, oui. dans l'article, pardon.
Ils sont toujours contents quand on ressemble un peu, on a les mêmes problèmes qu'eux rencontrent depuis plus de 50 ans aussi.
Mais eux, il y a du boulot quand même, hein, parce que...
Y compris dans leur centre commercial,
pour remonter la pente.
Et ce qui est curieux, c'est qu'à Albi, une partie des commerçants et des élus sont encore dans le déni. Il y a encore ce côté-là, parfois, dans certaines villes. Il y a un déni. On ne veut pas accepter ce qui est en train de se passer. On ne veut pas qu'on nous dise. C'est normal. Vous voyez quelqu'un arriver dans votre salon que vous ne connaissez pas et qui dit oh, attendez, mais la déco, là, c'est pas top. Forcément, ça fait mal.
Et les villes ont l'impression d'être stigmatisées quand on les cite concernant ce genre de problème. Alors, je précise que le débat se poursuivra lundi sur France Inter, puisque la matinale de Patrick Cohen aura lieu en direct d'Aubusson, dans la Creuse. Je ne sais pas si l'exemple est bien choisi, Olivier Razemont. Voilà. Alors, merci beaucoup à vous, Olivier Razemont, Pascal Madry, Hervé Lebras. Merci d'avoir passé ces deux heures en notre compagnie. Merci aussi à Irène Menem, Jérémy Younes, qui m'ont aidé à préparer cette émission. À la réalisation ce soir, Eric Lenné. À la technique, Ronan Mahé, Florian Layani, Gilles Gaillard.